Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur. Bumpy.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Cette semaine, nous vous emmenons découvrir un sport dont nous n'avons jamais parlé dans EPO. On range les crampons et les ballons et nous sortons nos bottes et nos cravaches pour parler d'équitation. Et pas n'importe laquelle. Nous allons revenir sur le magnifique parcours de la France lors des Jeux Olympiques 2016 à Rio. Parmi nos héroïnes et nos héros, Pénélope Le Prévost, Karim Florent, Thibaut Valette et bien d'autres. Avec moi pour en parler ce soir, Olivier.
Oui, bonsoir tout le monde.
Bonsoir, Younes.
Salut à tous.
Thibaut.
Bonsoir à tous.
Et Chloé.
Coucou.
Et nous ne sommes pas seuls ce soir parce que nous recevons également...
Elle le fait de plus en plus tôt dans l'émission, c'est insupportable.
Voilà, mais au moins c'est évacué, ça y est.
Ouais, c'est fait, ça c'est fait. Nous recevons Astier Nicolas, cavalier français, qui, spoiler alerte, n'est pas reparti bredouille de Rio en 2016. Je vous propose d'écouter cela pour commencer.
La dernière fois que l'équitation française avait ramené deux médailles d'or des Jeux, c'était il y a 68 ans. À Rio, l'équipe de concours complet emmenée par Astier Nicolas, Karim Lagouag, Mathieu Lemoine et Thibaut Valette excelle lors du dressage, du cross et du saut d'obstacle. Ces quatre garçons pleins d'avenir deviennent champions olympiques, 12 ans après leur dernier titre à Athènes.
C'est un héros.
Un obstacle, le bidet.
Et il va être dans le temps. Allez,
dans le temps.
Oui.
Génial.
Yes. Ce gamin est extraordinaire. Yes.
Le plus jeune de la bande, 27 ans seulement, remet le couvert en individuel.
Allez, booster ailleurs.
Allez, et c'est bien. Le dernier obstacle,
une médaille.
Le bidet.
Pour une médaille encore.
Allez, pour une médaille encore.
La médaille
pour
d'argent,
la
c'est sûr.
La médaille
allez,
d'argent. Yes. Allez, c'est bon.
Astier Nicolas repart du Brésil avec deux médailles autour du cou, une première depuis 1932.
Bonsoir Astier.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Ben avec plaisir.
Et pour commencer, alors c'est pas à toi que j'ai posé la question tout de suite, je finirai par toi parce que je suis sûre que tu auras la réponse la plus intéressante. Une petite question à vous tous. Et toi, Olivier, d'abord, quel cavalier es-tu ?
Un jour, je me suis fait écraser par un âne.
Ah merde !
Comment voilà. Ça ?
Bah, j'étais enfant. Tous les étés, j'allais en Bourgogne et il y avait des chevaux et des ânes et des poneys. Oui. Et j'ai fait du cheval aussi. Et un jour, j'ai même fait du cheval et il y avait un serpent qui est passé devant parce que c'était en forêt. Et
d'accord.
Comme ça. Bon, bref. Et à un moment donné, je guidais un âne à pied. Je veux dire, il y avait de l'herbe, c'était la campagne. Et j'ai trébuché sur une taupe ou quelque chose comme ça. Sauf que l'âne, lui, n'a pas trébuché. Et il m'a un peu écrasé. Voilà, donc...
Quel
cavalier je suis, exécrable.
Bidon.
Ouais, bidon, pas bidet pour le coup, mais bidon. Voilà, désolé.
Chloé.
Pied de thon.
Bah écoute, ça me ramène sur pas mal de souvenirs d'enfance, parce que j'en ai fait un petit peu quand j'étais plus jeune, sauf que j'étais la parisienne qui va à la campagne, donc je me suis un peu fait bolos par l'équipe
T'avais des surnoms.
J'avais pas de surnom, mais en fait, ouais. Il prenait la cravache et il s'attaquait à moi.
Ah oui, d'accord.
Un peu plus vénère.
Ah oui, c'est très violent.
Ouais, donc j'ai arrêté à ce moment-là, bizarrement.
T'as bien fait.
J'ai pas eu. Mais j'ai toujours la passion des animaux, donc moi, ça me plaît.
Thibaut.
Moi, je pense que je serais un cavalier rocailleux. Non, bon, en fait, c'est le vin qu'on a fait boire à Astier avant l'émission.
Non, alors, faut pas savoir, mais Astier est complètement bourré.
On l'a un peu préparé.
J'ai fait exprès, comme ça, moi, j'ai des excuses d'avance.
C'était la seule façon pour qu'il trouve l'émission intéressante. Donc, on a fait comme ça.
Non, n'hésitez pas à boire chez vous, d'ailleurs, pour trouver l'émission intéressante.
Moi, j'avais jamais fait du cheval jusqu'à très tard. Et je suis monté sur Gluck. Dans les Cévennes.
Ah oui.
Et c'était affreux. On m'avait dit que Gluck était endormi pour moi, enfin, que c'était vraiment pour les débutants. Et j'avais l'impression de faire un truc de fou, quoi. J'avais l'impression de faire du saut à l'élastique. Et en fait, on m'a expliqué après que j'étais pitoyable, que j'étais nul. Mais moi, c'était incroyable. J'ai très peur du cheval, mais ça m'excite aussi beaucoup de regarder ça.
Younes ?
Ben moi, c'est un souvenir d'enfance. J'habitais près de Doménil. Et il y avait un manège. Et je prenais toujours le cheval blanc. Voilà.
Merci pour ton témoignage, Lounès.
Alors ouais, il faut savoir que c'est pas Younes ce soir, c'est Lounès.
Voilà, hein, on m'a rebaptisé lundi en espagnol.
Parce qu'on est jeudi.
Parce qu'on est jeudi.
Parce qu'on est jeudi, ouais.
Et toi, Assier, comment tu te définirais en tant que cavalier?
Le style. Ah,
quel style, quel cavalier.
Toi, tu fais un peu de cheval.
Et bien, alors, dans ce cas-là, je vais vous raconter quelle cavalière moi je suis.
Ah oui, ça va.
Et bien, je ne suis jamais montée sur un cheval de ma vie.
Mais non.
Mais si, tu c'est un peu un regret. Et je. Bon, peut-être. Peut-être
il
un
paraît
jour.
Que ça arrive à des gens bien.
Il n'est jamais trop tard, Sarah.
Oh, t'es jamais tombé de cheval.
On fera notre baptême ensemble.
Ah ouais, trop bien.
Ouais.
Bon, allez, il est temps de démarrer. Pour commencer en toute simplicité. Olivier, je sais que tu es un spécialiste de l'histoire de l'équitation en France.
Ah oui. Et dans le monde. Et dans le monde, car ça a commencé dans le monde. Alors, on va pas parler de l'équitation ancestrale. Hein. Culture 2000 pourrait le faire pour nous. En France, ça s'est démocratisé tard. L'équitation, ça s'est démocratisé en fait plutôt au XXe siècle. Faut savoir qu'avant, tout appartenait à l'armée. Enfin, à la base, ça vient de l'armée. Ça vient même. C'est Napoléon, figurez-vous, qui a eu cette petite curiosité pour les chevaux, s'est développé l'école de Saumur, dans cette école qui était exclusivement militaire, il y a un homme, François Baucher, qui a commencé à utiliser des techniques de dressage, de cirque, de voltige pour les chevaux de l'armée. Petit à petit, il y a eu des compétitions qui se sont créées, notamment la plus connue, le saut d'obstacle, qui a à peu près 100 ans, hein, grosso modo.
Comme Younes.
Et comme le cinéma.
Younes, le cinéma, le saut d'obstacle, Camoulox. Et les premières compétitions vont naître petit à petit. Petit à petit, l'école de Saumur va se démilitariser, ce qui va aussi entraîner des gens, j'allais dire normaux, c'est horrible. les civils.
Calme-toi, civils. François Hollande.
Oui, oh la vache. Oh là là.
Je vais finir sur Twitch, toi aussi.
Oui, c'est ça, Samuel Etienne, si tu m'écoutes.
Calme-toi, Samuel.
Donc, vers la fin des années 60, en fait, seulement, ça va vraiment prendre, une ampleur générale. Maintenant, il faut savoir que l'équitation, c'est le troisième sport national en termes de licenciés et en termes de pratiquants.
Moi, je le découvre. En préparant, et en fait ça m'a sidéré parce que je m'y attendais pas du tout.
Oui, avec
Tu vis à Paris et qu'à Paris forcément on pense pas à l'équitation.
J'ai vu deux cavaliers aujourd'hui dans la rue, rue Le Drurelin, des gendarmes
de la garde nationale.
La garde nationale, ouais.
Très bien, merci beaucoup pour cette anecdote, Younes. C'est aussi le premier sport féminin, l'équitation. Et la France est très active.
Excelle
déjà par ses résultats et est très active aussi dans l'organisation. C'est le premier pays organisateur affilié à la Fédération équestre internationale.
Et il y a une grande volonté de la Fédération française de l'équitation de prôner l'ouverture vers le cheval, la démocratisation vers le cheval. Ah là là, je suis tellement contente de passer cet extrait, ça m'a tellement rappelé des souvenirs. Et ils ont eu une idée de génie, un slogan absolument génial. Mais on se moque, mais trop gentiment, on aurait promis. Vous devez vous en rappeler vous aussi, écoutez.
Le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, je trouvais trop beau d'aller au galop. Le cheval, c'est génial.
Fédération française d'équitation.
Le cheval, c'est trop génial.
Voilà.
Joe Dassin.
Astier, un petit mot sur cette. C'est toi, d'ailleurs, c'est toi qui fais les voix derrière.
Les voix d'enfant.
Dur. Très dur.
Tu faisais la doublure de Thierry Lhermitte aussi.
Tu connaissais ce slogan, j'imagine, Astier.
Absolument pas. D'accord. Je savais que le cheval, c'est trop génial. Je savais que c'était le slogan, mais je ne l'avais jamais entendu.
Eh oui.
J'ai pas une pub,
tu sonore, n'as pas participé à l'enregistrement.
Les choristes et tout à fond. Je savais pas.
Mais ça marche bien. Hein.
C'est assez vieux en vrai. Mais franchement, on l'a retenu parce que je pense que ça fait 10 ans qu'on l'a pas entendu et ça nous revient directement.
Moi, ça me fait penser à la pub du jus de raisin. Le jus de raisin, c'est ça, c'est vraiment raisin.
Oui, bien sûr.
C'est du vin, non?
Non. Alors,
c'était sûrement du vin.
Tout n'est pas
rocailleux.
Rocailleux. C'est ça, c'est vraiment le jus de raisin, c'est vraiment bien.
Oui, mais bien sûr.
Quand c'est un peu maturé.
Comment?
Quand c'est un.
Mais non, mais c'est le plus incroyable. Il est en vélo. Ça, c'est jus de raisin.
Ok.
J'arrête là.
Oui.
On avance.
Tu te calmes.
Il faut reprendre la situation en main.
Oui.
Les rênes,
exactement. Non, et puis comme on a posé très rapidement l'histoire de l'équitation, on voudrait connaître ton histoire assez. Comment tu t'es mis à l'équitation?
Eh ben, figure-toi que ma mère était cavalière du dimanche un peu, quoi. Elle avait un ami qui avait un cheval, donc de temps en temps, elle pouvait lui emprunter et aller se balader, ce qu'elle aimait le plus faire. Et moi, comme j'étais le dernier un petit peu décollé d'une fratrie, et ben, je la suivais du coup. Et je la suivais à pied.
comme moi avec l'âne.
Exactement, c'est beaucoup moins drôle.
Je n'ai pas marché sur les pieds, moi. Et du coup, l'envie de monter par flemme de marcher est vite venue.
Voilà. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça que...
Première expérience douloureuse, ma mère m'a mis devant elle, sur le devant de la selle, c'est une partie qui est très inconfortable. Et après, s'en est suivi des vraies séances d'équitation. Et la sauce a pris, ouais.
Donc au début, t'as commencé avec des poneys et ensuite des vrais chevaux
Ouais.
Ouais, c'est toujours comme ça, ouais.
Ouais, souvent.
Comme beaucoup de
avec Caramel et Filou, tu vois, au poney.
Ah, Caramel et Filou.
Ça, c'est vraiment des noms de poney, parce que les noms de chevaux, on verra après, ils sont quand même un peu
ils sont grandioses.
Ouais, complètement.
Oui, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, mais il y a une vraie recherche du nom de cheval, alors que le poney, bon, c'est le poney, quoi. Il y a une petite discrimination sur le nom du poney, si je peux te permettre.
Disons qu'on essaie de les stigmatiser un peu.
Oui. c'est vrai. Ça dépasse jamais guimauve, chocolat et citron. Enfin, ils ont pas le droit.
C'est toujours des noms de nourriture, ça les ramène un peu à leur condition ultime.
C'est terrible.
Tant de nourriture, t'as déjà mangé du poney, toi?
Condition ultime, on les bouffe pas.
Alors, peut-être quelques mots pour nos auditeurs non spécialistes de l'équitation sur les différentes grandes compétitions équestres qui existent. Il en existe notamment deux, hein, c'est les Jeux équestres et les JO. Est-ce que quelqu'un peut m'en dire quelques mots?
Alors oui, bah moi par exemple.
Bah oui, c'est bon, vas-y.
Et oui, il n'y a pas que les JO. Enfin, dans tous les autres sports, il y a d'autres épreuves. Mais là, en l'occurrence, il n'y a vraiment pas que les JO. Il y a les championnats du monde par discipline qui existent depuis à peu près une trentaine d'années. Qui se déroule tous les ans. Et ensuite il y a les Jeux équestres mondiaux qui eux sont organisés en alternance avec les JO, un peu comme les JO et l'Euro au foot. Donc au final t'as une grande compétition
comme la Coupe du Monde,
comme la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe.
Si je peux me permettre une petite intervention, ouais. les Jeux équestres mondiaux,
oui.
Et ce sont ceux-là les championnats du monde et ils sont tous les 4 ans, oui. Comme tu le disais, en alternance avec les JO,
c'est ça, donc...
et pas les championnats du monde tous les ans.
Ok, oui, d'accord.
Donc là, Thibaut, tu viens clairement te prendre une remontrance, hein,
alors,
si je me permets.
Alors, évidemment.
Mais peut-être qu'à mon avis, ton erreur part d'une bonne idée, c'est qu'il y a des championnats du monde tous les ans, mais qui sont des championnats du monde, on va dire, de jeunes chevaux de 6 ans et 7 ans. Mais les championnats du monde des vieux chevaux, c'est les mêmes qui courent les JO, c'est tous les 4 ans.
C'est ce
aussi.
Que Thibaut voulait préciser d'ailleurs.
Non, on avait travaillé cette séquence, ça avait compliqué.
Exactement.
Il devait me reprendre.
Comme je suis un peu timide, c'était pour me donner la parole.
Et bah, ça marche.
Ça m'a donné non,
merci Thibaut, n'hésite pas à être encore mauvais comme ça.
Oh
mais non, je rigole, ça va.
Quelle horreur.
Lui, c'est le méchant de l'équipe.
Ouais, c'est le méchant. Tout le monde le déteste.
Thibaut est impeccable dans tout son travail, je l'aime.
Ah. Et alors, bon, ces Jeux équestres mondiaux, ils sont imposés comme une épreuve majeur, un peu moins que les JO, mais quand même
ouais,
pas mal.
Importante, bien sûr.
Donc toi, tu les prépares aussi comme les JO, les Jeux équestres mondiaux, ou tu focalises tes entraînements que sur les grandes compétitions comme les JO?
Ah non, non, on est assez sérieux hein, quand j'y pense. Non, on travaille. tout ce que l'on fait, on le fait au mieux, et il n'y a pas de notion de JO, de Jeux équestres mondiaux, de championnat d'Europe. Quand on prépare un cheval, on est au taquet tout le temps.
Ouais.
Ça, c'est un sport qui ne souffre pas trop à l'approximation. Donc, non, on est vraiment. Cette année, c'est championnat d'Europe. L'année d'après, c'est les JO. L'année d'après, c'est championnat d'Europe. L'année d'après, c'est championnat du monde.
Parce que ça, tu priorises pas. Tu t'entraînes au même niveau.
Après, il peut y avoir. Tu peux, solliciter des propriétaires d'un cheval pour qu'ils investissent dans un bon jeune cheval en vue de certains JO, parce que c'est ça qui leur parle le plus.
Et que ce sera son âge de maturité aussi pour les JO.
Exactement. Ouais. Tu vois qu'il bosse bien.
C'est une blague, ça va. Évidemment que il bosse beaucoup plus que mieux que moi, ça va. Non, je
alors
le dis.
Moi, ce qui m'intéresse avec les Jeux équestres mondiaux, c'est qu'ils ont eu lieu à Caen.
Oui, en 2014.
Ils ont foutu en l'air le stade Michel Dornano pendant 6 mois. Et c'est pour ça qu'on a mal joué ensuite.
C'est exclusivement pour cette raison, Thibaut.
Oui. Pourtant, sur le sable, ça aurait dû les rendre plus rapides, les joueurs.
Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'ils auraient eu besoin de tes chevaux pour marquer les buts. Oui. Et malheureusement, ces Jeux équestres mondiaux, ils ont connu des petits bémols d'organisation ces dernières fois. Et notamment, pas que ceux de Caen, ceux aussi de Trion, je ne sais pas comment on dit aux États-Unis.
Trion.
Ils ne se sont pas passés impeccablement. Il y avait des problèmes de distance trop grandes, trop petites entre les sites pour différentes disciplines. Bref, c'est des vrais sujets d'orga. Et aujourd'hui, les Jeux équestres mondiaux ont été annulés pour la prochaine session, c'est-à-dire 2022.
Mais tu me l'apprends.
Ah, désolé.
Oui, à la place, alors.
Mais à la place, tu auras les championnats du monde de chaque discipline, donc c'est un peu ce que tu disais finalement. Donc ça change pas tes échéances, puisque toi, tu te fiches de l'échéance, tu te prépares de la même manière pour les grands événements.
Peut-être. Je crois qu'il y a 8 disciplines en tout qui étaient représentées, en tout cas depuis 2010. Oui. Peut-être que ça a changé pour les prochaines. Est-ce que vous pouvez me les citer?
Donc on a le saut d'obstacle.
Astier.
Trop facile pour lui.
Pardon, vas-y Chloé.
Alors, donc nous avons le saut d'obstacle, le dressage, le complet, comme le pain, ça c'est pour toi, oui. Younes.
Merci.
On précisera tout à l'heure ce que c'est le complet.
Le pain complet.
Le complet. Pain complet, c'est...
Le taux de gluten dans le pain complet, c'est ça? Mais également l'endurance, donc qui est plutôt un itinéraire sur entre 20 et 160 km, l'attelage, la voltige et le reining.
Ça, j'avais jamais entendu parler, le reining.
Alors, le reining, c'est l'équitation western, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement.
C'est exactement ce qui est écrit entre parenthèses, enchaînement de figures style western.
Acrobatie, un peu comme à Euro Disney, le Wild West Show.
Alors, le spectacle est génial. Attends. La bouffe est dégueulasse.
Est-ce que personne n'a noté que Younes avait dit Euro Disney? Chose que plus personne ne dit de nos jours.
Mais si, Astier m'a compris.
C'est pas Astier. Parce que je suis pas très moderne, c'est ça? J'aime pas trop tes allusions là.
Faut savoir qu'on a joint Astier avant pour préparer cette émission par Minitel. Hein.
Voilà. Grâce au Minitel de Younes.
Oui. Et oui, et ça marche encore.
Donc, on vous a parlé des jeux équestres mondiaux, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt les JO. Alors l'équitation au JO, ça apparaît en 1900 je crois, donc oui. ça fait quand même un petit moment, et ça a toujours été présent à part en 1912.
Entre 1900 et 1912 il n'y a pas, donc 1904, 1908, 1900, ça revient en 1912, et depuis 1912 c'est toujours présent.
D'accord. Très bien, merci beaucoup. Et au départ c'est que les militaires hommes qui vont avoir le droit de participer. Tout et les fait. Civils vont être accepté qu'à partir de 1952, et les femmes seront également admises cette même année. Et c'est quelque chose peut-être de très important qu'on redira, c'est que l'équitation est un sport mixte, en fait. Enfin, oui. Les femmes et les hommes concourent soit ensemble, côte à côte, en équipe, soit les uns contre les autres. Voilà, ce qui est quand même assez rare.
C'est le seul sport mixte aux Jeux Olympiques où les femmes et les hommes ont le même au départ concours pour le même titre, pour le même concours.
L'égalité
des chances est la même pour les hommes, ouais, et les femmes. Alors ça, ils sont en train de voir ça pour Tokyo. Il y a des doubles mixtes au tennis ouais, de table,
mais
etc.
Raison, c'est
mais
pas
c'est
pareil.
Pas la même chose.
C'est un homme, une femme contre un homme, une femme. Là, c'est vraiment un homme qui peut affronter une femme seule en face et qui se battent pour le même titre. Il y a quand même beaucoup plus d'hommes. J'ai l'impression que sur une grande compétition, je dirais qu'il y a 80% d'hommes et 1% de femmes, non?
Il y a effectivement, ouais, un peu plus d'hommes sur ces compétitions.
Ouais. Et alors, juste pour montrer peut-être un peu la démocratisation de l'équitation, 9, c'était le nombre de pays qui étaient présents lors des JO de Londres en 1912 en équitation. À Rio, il y en a 43, donc on voit que ça a quand même pas mal étendu.
Oui.
Et peut-être, j'avance un peu...
Mais ça reste quand même un sport pratiqué pas par tant de pays que ça.
43
pays, c'est pas non plus énorme.
Enfin, non.
C'est vrai.
Parce que
c'est vrai que ouais, c'est assez resserré. Ouais. Il faut avoir une culture équestre. Puis c'est
plutôt les pays de l'hémisphère nord, ou enfin, je sais pas, il y a quelque chose un peu qui a à voir avec l'Angleterre, peut-être toujours un peu, comme d'habitude.
les Anglais. Non, pardon, vas-y Astier, mais
le berceau de l'équitation classique, c'est l'Europe, donc voilà, ouais, c'est européen. Et ça commence en Italie. Hein,
D'accord.
Mais en regardant les JO de Rio, on s'apercevait que les Néo-Zélandais et les Australiens étaient super forts, par exemple.
Oui,
parce que
vrai.
Ça, c'est par extension de l'Angleterre.
De l'Angleterre, c'est ça, ouais. C'est
le Commonwealth.
Après les après
l'accent.
Merci Jean-Michel, à peu près de l'accent. Et je trouve évidemment pas mes stats là, mais c'est pas les Anglais, puisqu'on parle des Anglais, c'est pas les Anglais qui ont le plus grand nombre de médailles.
C'est
les Allemands de loin, de très,
ouais,
très loin.
Et oui.
Ah voilà, je l'ai. 66 médailles, dont 30 en or pour les Allemands. Je parle des Jeux Olympiques.
Devant une confondue.
Toutes disciplines confondues.
Ouais.
Toutes médailles confondues sur l'équitation. C'est l'Allemagne. Ensuite, c'est la Suède, figurez-vous.
Ça, c'est assez bizarre, mais...
Et ensuite, c'est la France. Et ensuite, c'est la France. Et les États-Unis ont remporté 10 médailles de plus en tout. Nous, en France, on en a remporté 42. Les États-Unis en ont remporté 52, mais ils ont moins une ou deux médailles d'or en moins que nous. Ou peut-être
Cocorico.
Trois. Voilà.
Et alors, peut-être et pour... Ouais.
Mais tu vois, Asti, il est étonné sur la Suède. Je pense que la Suède, ils ont dû remporter moins de médailles dans les 10, 15, 20 dernières années. Et c'est peut-être plus historique, mais moins fort maintenant, non? Enfin, j'en sais rien, mais vu...
Ah oui, parce que la Suède, aujourd'hui, fait plutôt... figure d'outsider, voire moins parfois. Hein. Donc je suis très surpris. Et quelle que soit la discipline, parce que tu parlais de l'Allemagne, je suis pas trop surpris maintenant que tu dis toutes disciplines confondues, parce que le dressage et le saut d'obstacle, c'était des disciplines complètement dominées par l'Allemagne et de manière écrasante. Quoi. Ouais.
Alors c'est une excellente transition.
Il est parfait. Hein.
Excellent. Et voilà. Et oui. Je vous propose peut-être de décrire en quelques mots les trois disciplines, les trois épreuves qui sont représentées aux JO. Donc juste préciser que à chaque fois il y a un concours en équipe et un concours individuel pour chaque épreuve. Donc, ça fait en tout 3 fois 2, Thibaut.
6.
Bravo.
Ah, je l'aurais ouais.
Il est sérieux.
C'est bon.
Oh, je retire tout ce que j'ai dit, Thibaut. Je suis désolé.
Et
merci pour la pancarte.
Est-ce que tu voudrais nous parler un peu du dressage? C'est quoi ça, le dressage?
Alors, je file sur mes...
sur mes notes.
Souvent considéré comme un art, objectif de cette discipline est de développer les qualités du cheval au moyen d'une éducation harmonieuse.
Ah, mais c'est magnifique ce que tu nous dis.
C'est beau. Hein.
Assier, cool. tu définirais comment de la même manière le dressage?
Disons que si je connaissais pas les chevaux, j'aurais pas compris ce que tu as dit.
Ah ouais. Alors,
je sais pas si c'est un compliment.
Alors, ça se concentre sur des mouvements de dressage au sol tels que à haut niveau le piaffé.
Alors c'est quoi le piaffé?
Ah, le piaffé, alors
le piaffé, c'est ce qu'on appelle un air relevé, c'est le piaffé d'impatience, on connaît cette expression. Ouais. Ça vient des chevaux qui piaffent, c'est ils bouinent sur place un peu comme ça.
Ah ouais, enfin, un peu du sur place.
Oui, voilà. Ils font un peu le fier.
On a l'impression qu'ils dansent en fait pour les avoir observés.
C'est soit de la crainte dans le comportement naturel du cheval s'il est en liberté et qu'il le fait. Soit de l'impatience, soit ouais, c'est un peu comme faire, voilà, en voiture, c'est comme faire un burn un petit peu.
Ah oui, je vois. Ça fait de la fumée, enfin un peu moins de fumée qu'avec
une voiture. C'est juste avant de décoller, quoi.
D'accord. Et c'est toujours en fait des gestes qui sont liés à la mécanique naturelle de l'animal.
Oui, c'est un petit peu, si tu veux, retranscrire, c'est pas le mot, mais
oui.
Mettre en application certains comportements naturels du cheval ou mouvements naturels du cheval sur commande.
D'accord.
Alors le piaffé, c'est dans le dressage pur. Nous, dans le complet, on n'a pas cet air relevé.
D'accord.
Parce que en fait, plus tu te spécialises dans une discipline, moins tu peux être triathlète. Nous, dans le concours complet, on est triathlète, donc on fait un dressage à un niveau inférieur.
D'accord, j'imagine.
À celui du dressage de JO.
Vous poussez moins, voilà.
Et en saut d'obstacle, on saute moins haut que évidemment les gars qui font les JO en jumping.
Et donc, il y a d'autres formes. Il y a le passage, le trot allongé, la pirouette et les changements de pied au galop.
Peut-être, pour résumer, en gros, le dressage et l'épreuve de dressage au JO, ça consiste pour ce qu'on appelle le couple, cavalier et son cheval, d'exécuter un certain nombre de figures imposées ou libres sur un terrain, devant des juges. Finalement,
c'est une chorégraphie.
C'est exactement ça. Il y a du dressage en musique, pour le dressage pur. Nous, dans le dressage du complet, c'est des figures imposées. Ce n'est pas libre et il n'y a pas de musique. Enfin, il y a une musique de fond, mais il n'y a pas une musique qui est en accord, précisément, parce que quand ils font des reprises libres en musique... Eh ben, ils ont une musique par allure, tu vois, ça va très bien, c'est bien, ça match, c'est fait pour.
Je vois bien ça sur du booba.
Moi, j'étais plus sur les sardines.
Ah oui, sardines.
De Patrick Sébastien.
Moi aussi. Ouais.
Il y a une vidéo exceptionnelle, je crois que c'est au JO de Londres, sur un medley du Roi Lion.
C'est pas vrai.
Je me suis perdue sur les moments de dressage. Je me suis perdue sur ces vidéos-là. J'étais là, genre, j'ai raté tout ça dans ma vie.
Alors, c'est un ensemble de figures qui est imposé sur... Voilà, sur une piste, sur un terrain.
Il s'arrête.
On redémarre.
Lui laisse le dressage, il veut en faire 25 minutes. Hein. C'est ça, vraiment sa passion.
Non, mais je pense que...
Non, mais bon, pour résumer, vas-y. Ouais,
non, mais je pense qu'on est à peu près clair sur le dressage. Et peut-être qu'on peut parler de l'autre discipline qui est le saut d'obstacle. Cette fois-ci, qu'est-ce que c'est le saut d'obstacle?
Moi, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, excusez-moi de vous couper.
C'est
que le dressage, une fois qu'on l'a expliqué, maintenant il faut expliquer pourquoi on en fait. Quoi.
Ah, bah oui, c'est très bien.
Parce que sinon, ça fait un peu punition comme ça.
C'est vrai.
Pourquoi est-ce qu'on en fait?
Le dressage, c'est. En fait, à la base, c'était le test du cheval d'armes, le concours complet. Donc, le dressage, c'est l'obéissance au cavalier, le présenter à un cheval de guerre, de cavalerie. Se tenir arrêté quand il faut être arrêté, décoller quand il faut décoller, aller vite quand il faut échapper, revenir, tourner. Donc ça vient de là, voilà.
D'accord.
Et c'est pas forcément pour les cavaliers de concours complet, c'est pas toujours la discipline qui accroche le plus. Hein, c'est un petit peu le ticket d'entrée, on va dire, pour le reste de la compétition où l'adrénaline arrive et c'est là où souvent on est le plus.
Toutes les figures sont effectuées sur trois allures, c'est ça?
Ouais. D'accord, pas, okay. Pas trop égalo.
Pas trop égalo, ok.
Les ouais. Trois allures du cheval.
Fait, il y a aussi le double axel aussi, mais alors, ça, il faut vraiment avoir un cheval très compétitif.
Ouais, tout ça, référence à un peu un langage militaire, finalement.
Ah bah oui.
À une ancienneté historique.
Oui, oui, ouais, c'était anciennement militaire. Ouais.
Super.
Et donc, le saut d'obstacle, qu'est-ce que c'est le saut d'obstacle?
Bah, le saut d'obstacle,
t'as les obstacles et tu sautes dessus.
Déjà, pas
alors,
dessus.
Pas dessus.
Pas dessus.
Sinon, t'as les pénalités.
Par dessus. Je m'y dis le pas. Mais je pense que c'est un peu l'image que tout le monde a lorsqu'on va parler d'équitation, notamment en compétition. Ouais. Donc, c'est le cheval qui file, en fait, sur un terrain qui est composé, du coup, d'obstacles mobiles. J'ai vu entre 8 et 12, ça change jamais, ce chiffre.
Plutôt 12 ou 13, mais d'accord. Pas tellement 8, ouais.
Ok.
Et 8 c'est pour Gluck et Thibaut.
Et ils sont comme ça.
Tu as fait une blague visuelle.
Oui mais ça marche. On mettra
c'est
tout
intéressant des podcasts nouveaux.
On mettra l'image sur Twitter. Mettra...
Tu comprends pourquoi je suis pas moderne.
Tout va trop vite.
C'est pas fiable.
Et du coup c'est une épreuve du coup qui est réglementée, donc il y a un temps imparti qui peut être donc on peut cumuler des pénalités de temps en fait selon si on tombe ou si on fait tomber des obstacles. Et donc voilà, par exemple si on fait chuter une barre, ça nous fait 4 points de pénalité, je vois ça.
C'est ça.
Et on peut dépasser le temps.
Ça fait de la pénalité.
Un point
aussi.
De pénalité par seconde.
Enfin, ça a changé très récemment, donc c'est pas que tu t'es trompé dans tes recherches. Mais...
C'est pas moi qui fais cette partie.
Alors, tu as vu comme elle balance. C'est-à-dire que tout de suite, tu dis,
on peut pas lui faire confiance.
Surtout que je
non, ce serait très dommage de balancer.
C'est,
non,
c'est passé à combien
en plus,
maintenant
c'est moi qui l'ai fait.
Maintenant,
mais...
c'est. Merde, je sais plus. Si, c'est 0,4 points par seconde.
Les règlements évoluent.
Ah ouais.
Enfin, okay. Les règlements évoluent, ça bouge très souvent ou
non,
c'est
pas
plutôt...
très souvent, non. Mais là, c'était quand même. Je pense que c'est une bonne évolution.
C'était un peu dur
un
parce
point,
que.
Un point par seconde,
toi,
c'est
tu prends un point d'ailleurs sur, en 2016. Tu prends un point de pénalité sur le temps.
Je prends quelque chose. Ouais.
Tu spoil, on n'en est pas.
Non, pardon, donc, excuse-moi.
Donc, ça change un peu maintenant la façon de voir les compétitions. T'as intérêt à aller moins vite, à être sûr de passer l'obstacle et t'auras
alors,
moins de pénalité en
pas
seconde.
Pas vraiment
au
parce que souvent, ils nous mettent des temps très serrés et 0,4 points, de toute façon, on peut pas vraiment se le permettre. C'est juste que la pénalité était un petit peu
trop forte.
Ok.
Ok. Est-ce que vous voulez me dire quelques mots par rapport au saut d'obstacle sur le déroulé pendant les JO?
Non.
Donc, on a 2 jours de dressage. On a le cross ensuite. On a parlé du saut d'obstacle, mais il y a d'abord le cross.
Ah oui. Donc, ça, là, tu es sur le concours complet.
Bien sûr.
Encore voilà, présenté, pardon. Parce que là, on a présenté les disciplines dressage, saut d'obstacle. Et
oui,
ensuite...
mais je reparlais de
dans la chronologie, complet. En fait. Astier avait précisé dans la chronologie, le cross arrive avant.
Et du coup, on parlait du saut d'obstacle et après de l'épreuve par équipe. Mais en fait... Le classement individuel se fait, le classement pardon, par équipe se fait sur le classement individuel. Donc d'accord. En fait, on fait le au JO seulement, parce que normalement on fait dressage, cross et saut d'obstacle, et au JO on fait cette chose-là, et à la fin on rajoute un tour supplémentaire de saut d'obstacle, mais le même jour.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est le même jour que tu refais une deuxième fois le saut d'obstacle. Ouais. Okay. Le même parcours exactement que tu as fait
non,
la première fois.
Non, un parcours un peu différent, il change un petit peu.
Et donc voilà, c'est ce qu'on disait. Donc il y a 3 disciplines au JO, le saut d'obstacle, le dressage et le concours complet.
Que tu
viens de présenter avec le saut d'obstacle, le dressage et l'épreuve spécifique, le cross, qui est plutôt une épreuve à la fois saut d'obstacle et d'endurance, on peut dire
ça. Une sorte de triathlon.
Oui, le concours complet pourrait s'appeler de manière plus simple le triathlon équestre, t'as raison.
Oui, ouais, tu vois.
Parce que par exemple, le water polo équestre, ça n'aurait aucun sens.
Mais non, tandis que là, tu vois, le triathlon, ça prend aucun sens. Mais
ado d'hippocampe, si.
C'est beau. Ils sont bons, la FEI, ils pourraient nous sortir des trucs comme ça.
Et donc, peut-être que vous l'avez deviné, mais on va quand même le dire, toi, Astier, tu concours dans le concours complet. C'est ça ta discipline.
Comme le pain. Blague préférée de Younes depuis 1884.
On est désolé, Astier, tu peux encore partir avant de. Si tu veux,
je peux prendre un bout de jambon blanc.
Oui. Mais tu peux. Prends la bouteille rocailleuse et cours.
Alors, il est peut-être temps de nous rapprocher des JO 2016. Oui. Mais avant ça, peut-être quelques mots sur l'équitation française. Ça me fait rire, je sais pas pourquoi j'ai fait cette blague, j'ai mis on s'en sort mieux en équitation qu'en tennis actuellement pour la France. Voilà.
On s'en sort mieux globalement en tous les sports qu'en tennis, hein. Thibaut pourra confirmer, mais bon.
et pourtant, peut-être pour faire l'historique de 2016, avant 2016 il y a eu les JO de 2012 et je crois que ça s'était pas hyper bien passé pour la France.
Moi je vais vous en parler de ces JO 2012 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a gagné exactement en tout et pour tout zéro médaille.
Yeah.
Ah oui,
en 2012, Astier, en 2012. Donc autant dire qu'en 2016, nous étions plutôt attendus.
Ils nous ont déjà volé les JO qui étaient prévus à Paris.
C'est pour ça qu'on a boycotté niveau performance.
Exactement. Et on a fait la grève de la performance. Ah, oui. Voilà.
Toi, tu étais au JO de Londres en 2012?
Et non, et non, et non.
Ouais, bah voilà, déjà qu'il était très jeune à Rio.
Ouais, ouais, je sais.
Enfin, j'étais pas trop jeune, non. J'étais dans les longues listes, mais ouais, j'ai pas été suffisamment dans le coup. Ouais, j'étais jeune. Je sortais des trucs jeune cavalier.
Donc on sort des JO de Londres plutôt un peu déçu.
Annie.
Et
brocouille.
Et
on peut le dire.
Comme on dit dans le bouchon noir.
Parfait.
Exactement. Et donc il va falloir se qualifier pour Rio de Janeiro. Et donc je sais pas ce qui se passe.
C'est bien, Sarah, tu es précise.
L'œuf de janvier. Ça,
autant Younes nous a fait 25 minutes sur le dressage et là on va voir toute l'histoire de Rio.
Sarah, lâche-toi.
Le Corcovado, le Denteur.
Et là, je mets les diapos de Younes. Autre blague visuelle.
C'est une ville magnifique, soit dit en passant. Oui. Non, mais alors, donc, pour aller au JO, il faut d'abord que l'équipe de France, en tant que telle, soit qualifiée. Je crois que, Astier, toi, tu n'étais pas là pendant les qualifs au départ en 2015, parce que tu avais eu un problème avec ton cheval ou quelque chose comme ça. Il n'y avait pas une histoire comme ça?
Respiratoire. Ton cheval avait des problèmes respiratoires, non, en 2015. Il y a quelque chose, non? En 2015. Il y a quelque chose en 2015.
On l'a écrit en rouge sur la feuille.
Une tension très basse.
C'est Michel qui vous a dit ça, non?
On ne va pas. Oui, car il faut savoir que pour préparer cette émission, nous avons eu au téléphone Michel Asserey, le DTN de la Fédération Française d'Équitation Nationale.
Et on balance.
Nous le saluons. Ça a été.
Alors, Michel, si tu nous écoutes, mon cheval n'avait aucun problème respiratoire, c'est très bien.
Ah ouais, il y a des sources. Ok. Alors, en gros, pour être sélectionné pour aller au JO, il faut finir en 2014 dans les 6 premiers du championnat du monde à quand?
Michel Dornano.
Non.
À quand?
Oui, à quand?
À quand?
Oui. Bah, il est plus précis.
Mais en quand? En 2014.
On finit quatrième, donc normalement, alléluia, tout va bien, on est sélectionné. Et en fait, eh bien, il y a confirmation apparemment de dopage sur l'un des chevals qui s'appelle Calao des Mers. Et là, on voit la différence avec le poney chocolat.
Oui, oui, c'est sûr.
Oui, Calao des Mers, c'est un autre nom, effectivement. Monté par Maxime Livio, tout à fait. Oui. Après, il y a eu confirmation de dopage. On va mettre tout de suite Astier dans la sauce.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, on va bien pas l'interroger sur
ça. Non, mais voilà. Donc, il y a eu confirmation. Et donc, la qualification nous semblait... a été remise en jeu. C'est même pas remise en jeu. C'est-à-dire que on n'est plus qualifié pour les JO 2016.
C'est invalidé, ouais. Et donc.
Et heureusement, en 2015, il y a le championnat d'Europe.
Exactement.
C'est ça, Astier, tu me confirmes, à Blair Castle, en Écosse. Et là, il faut finir, je crois, dans les deux premiers, c'est ça? Dans trois premiers?
Non, c'est les deux premiers, mais qui sont pas encore sélectionnés.
Ah voilà, les deux premières nations pas encore sélectionnées, qui finissent, seront qualifiées pour les Jeux Olympiques 2016.
La France est qualifiée. Alléluia.
Médaille de bronze.
Et bravo. Donc tout cela va très bien finir. La France va partir à Rio. Mais alors, pour que les gens comprennent bien, une fois que ton pays est qualifié, ben, il faut te préparer. Et t'as un pool de cavaliers, de chevaux, de couples potentiels pour partir. Tout ça, on travaille, on s'entraîne ensemble. Mais à la fin, il n'y en aura que quelques-uns qui partiront. Et je vous propose d'écouter un petit extrait sur l'état d'esprit au sein de la Fédération Française d'Équitation à l'époque.
En 2016, briller à Rio est l'objectif de toutes les fédérations olympiques. Pour la première fois depuis 20 ans, la Fédération française d'équitation a qualifié 3 équipes et veut oublier Londres 2012.
Il a été décidé au lendemain de ces Jeux-là de penser ce qui n'avait pas forcément été et de reconstruire sur les 4 années à venir avec des collectifs plus ouverts, avec beaucoup plus de couples, plus de cavaliers, toujours de renforcer le dispositif JOJEM qui existait déjà avec ses conventions de partenariat et de confiance avec les propriétaires.
Une seule certitude en début d'année, 15 chevaux et 15 cavaliers partiront pour le Brésil. Alors dès le mois de janvier, tout le monde s'est mis au travail.
Et là, peut-être qu'on peut dire qu'on a discuté de cette période donc, avec Michel Asserey, justement, et on va comparer avec tes sentiments, Astier. Non, mais c'était presque... Et, enfin, c'était assez fort quand il nous en parlait, où il disait que vraiment il y avait quelque chose, ils avaient vraiment voulu créer une vraie équipe, quelque chose de très fort, que votre entraîneur qui était là depuis 25 ans, qui vient de Granville, vous faisiez venir tout le monde à Granville pour galoper sur la plage, vous louiez des maisons, vous vivez vraiment ensemble toute cette période de préparation. Peut-être que tu peux nous raconter un peu comment c'était, et en même temps ça doit être dur parce que toute cette période, on ne sait pas si on va partir ou pas en plus à Rio.
Ouais, enfin quand on est là-bas, c'est que ça sent bon.
Il y a bon signe, c'est bon.
Il y a bon signe.
Et voilà.
Il y a bon signe, comme dirait Sarah. Bravo. Donc il y a bon signe, t'es à Granville. Évidemment, c'est l'équipe. Ça se passe super bien.
Non, mais en fait, quand t'es à Granville, si tu veux, il y a l'équipe, il y a un remplaçant qui est là pour s'entraîner au cas où ils partent, donc pour être dans le coup.
Il sait déjà qu'il est remplaçant, celui-là.
Ouais.
Ah ouais.
Ah ouais.
Donc ça c'est clair, et écoute, on voit bien qu'il y tient et qu'il est né là-bas, parce qu'on loue des box pourries dans un endroit tout crave. mais par contre il y a des conditions qui sont favorables par ailleurs, il y a la plage juste à côté, des très grandes plages de la Manche, donc pour entraîner les chevaux c'est super.
Le débarquement.
Voilà.
Okay. Je me rappelle à ma jeunesse. Mais oui.
La culture, c'est comme la confiture.
Et j'en ai des pots. Et j'en ai des pots.
Et surtout que le débarquement à Granville, on n'a pas vu grand monde. Hein, parce que Lunès s'est planté le département en plus.
Mais non, mais je m'étais trompé, j'étais tout seul.
C'était hypothèse, quoi. Ouais,
c'est pas grave.
J'étais tout seul là-bas.
Et puis on s'entraîne sur l'hippodrome de Saint-Martin-de-Bréal, un petit plaid à côté de Granville. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette notion de former une équipe 2 semaines et demie avant, plus l'échéance, hein, ça fait un mois ensemble. J'avais de la chance, on avait une équipe formidable, donc j'avais passé des super moments. Après, t'as quand même aussi besoin d'un espace, de retrouver aussi d'autres potes que t'as, tu vois. Moi, c'est pour ça que c'est un bol d'air quand au JO, il y a ma famille, mes amis qui sont arrivés. Ça m'a fait un peu de bien. Pourtant, j'avais une équipe, je ne pouvais pas demander mieux. Mais c'est vrai que c'était à la fois très, très fort et très positif. Et à la fois, tu vois, c'est quelque chose d'un peu surnaturel pour nous, parce qu'on pratique un sport individuel et tous les ans, on essaie de se mettre ensemble. On se met ensemble d'ailleurs avec succès pour un championnat. Ouais. Et justement, c'est pour ça qu'ils font ces stages et cette durée-là pour créer cette équipe qui n'est pas naturelle toute l'année.
Donc c'est un esprit qui va naître à la suite du stage, en fait. Et ça se passe toujours bien, ou est-ce que tu as des
histoires? Non, j'ai fait les championnats du monde 2018. Je me suis beaucoup moins amusé qu'au JO, et je parle pas du succès sportif, mais amusé, oui. Ça peut paraître bizarre, mais je veux dire
la camaraderie.
La camaraderie était un peu moins spontanée. Était beaucoup plus forte à Rio.
Ouais. À Rio. Ouais.
Donc la France est qualifiée, les cavaliers pour Rio sont sélectionnés, mais Younes, je sais que tu veux nous en parler. Non. Il y a un mais.
Non,
c'est les JO de Tokyo n'ont failli pas avoir lieu à cause d'une épidémie. C'était pas le Covid à l'époque.
Alors, tu parles de Rio.
De Rio, pardon.
Ouais, de Tokyo.
De Tokyo.
Mais qui n'auront peut-être pas lieu.
Moi, j'aimerais que Astier nous parle de la morve. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Est-ce que tu as entendu parler de cette épidémie en fait, qui a frappé 17 chevaux à Rio? Et effectivement, cette maladie visiblement frappe quasiment exclusivement les chevaux. Cette morve.
Ne connais-tu quoi?
Bon.
Alors, malheureusement,
tu rencontres tes 27 pages de notes, Younes, pour juste ce commentaire.
J'ai presque passé une thèse sur la morve, spécialement pour ce soir.
Malheureusement, Asti, on peut pas tout couper. Younes, on aimerait, mais c'est pas possible.
Non, mais il y a un cordon sanitaire visiblement qui avait été créé à Rio pour effectivement organiser un an plus tôt, pour préparer l'organisation, et ça a failli capoter parce que justement cette épidémie avait mis à mal les organisateurs. Voilà.
Mais c'est possible. Mais
c'est une information.
Après, j'ai une mémoire sélective aussi.
Tu fais bien.
La fameuse mémoire sélective du sportif.
Voilà. Garde les bons souvenirs.
Mais d'ailleurs, peut-être qu'on peut dire un mot avant de passer à la pause musicale. Donc, on parle de l'épidémie de morve avant Rio. Là, quand même, les choses doivent être bien chamboulées et bien bizarres en ce moment avec le Covid. Est-ce que ça va? On arrive quand même à se concentrer, à s'entraîner?
S'entraîner, oui. Après, c'est les compétitions que c'est plus dur parce que y en a pas mal d'annulées. Toutes celles qui reposent sur la billetterie sont annulées, quoi.
Ouais.
Et puis, c'est un grand coup de masque tout le temps. on l'a pas à cheval, il faut l'avoir en descendant, sinon on se fait toper tout de suite.
Ah oui.
Non, c'est pas toujours facile. Bon, ça c'est le, on va dire que c'est le lot de tout un chacun en ce moment. Oui. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de programmes changés, annulés, et c'est compliqué de faire un calendrier de saison adapté.
Donc ça affecte la préparation et ouais. Ouais.
Et encore, toi, t'as de la chance, t'es sur un sport où t'es pas au contact du concurrent, qui est pas si fréquent en fait en sport. Ouais. C'est-à-dire que toi, vous pouvez vous entraîner, mettre des masques et ne jamais croiser vraiment vos concurrents directs.
Hein, ouais, bien sûr.
Ça, c'est pas...
Sauf à la buvette, quoi.
Ah, ça, j'attendais que tu le dises.
Qu'il n'y en a pas en ce moment, donc comme ça, t'es bien.
Bon, eh ben, on va pouvoir enfin admirer nos cavaliers à Rio, mais avant ça, je vous propose la petite pause musicale. Alors, Olivier, qu'avons-nous écouté ?
Eh bien, c'était The Horse Song de Iggy Pop.
Comme par hasard.
La chanson du cheval en français.
Oui, merci beaucoup, Chloé. Oh,
parce que je suis un peu bilingue. C'est pour
oui,
ça.
Et non pas The Horse Song, Younes. Ah. Michael Jackson.
Et alors ?
Ils ont dit Zeus.
Da. Ils ont dit Da.
En tout cas, on dit Lunes.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans la compétition, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais on va peut-être quand même dire quelques mots sur les chevaux, parce que c'est quand même une partie importante en équitation.
Bah, c'est surtout le seul sport olympique avec un animal. Enfin,
alors qu'il y a des sports trop cool, par exemple, quand les chiens, ils sautent, ils Ok, je dis rien, mais moi je regarde des vidéos de compétitions de chiens pendant des heures et des heures et ça me fait beaucoup rigoler.
Tes dimanches sont passionnants.
Alors, quelques mots sur les chevaux, les enfants ?
Oui, moi je peux vous parler des chevaux.
Ah, vas-y, Thibaut.
Avec beaucoup de blagues à l'intérieur.
Oh là là, mon Dieu, j'ai
Non, mais déjà vous dire qu'un cheval, en fait, c'est mature pour faire des compétitions que relativement tard. C'est-à-dire c'est-à-dire que bah, il peut en faire à partir peut-être 5-6 ans, mais il est vraiment mature pour des compétitions de très haut niveau que vers 9-10 ans. En fait, il monte en régime comme et comme un sportif de haut niveau, il commence pas par les Jeux Olympiques. Bah, c'est pareil pour un cheval, mais on se pose pas forcément la question, mais c'est quand même important de le dire.
Ouais, souvent la question c'est quand tu vas au JO, on te prête un cheval là-bas. Non, en fait c'est.
Mais non, mais je pense qu'il y a des gens qui disent que ça ne repose que sur le cavalier, donc au final.
Non, c'est une préparation de couple, mais vraiment.
Et il y a une osmose qui se prépare. Hein. Ouais.
Oui, avec la qualité que peut avoir le cheval, les qualités qui vont te servir. Bah pour toi le concours complet, pour d'autres le saut d'obstacle, exclusivement pour d'autres le dressage, ça doit être très différent, et ça il faut pouvoir le sentir et pouvoir, ouais, quand t'es avec ton cheval, sur ton cheval, pouvoir déterminer là où il va être utile entre guillemets, et surtout être avec toi.
Et peut-être tu peux nous dire quelques mots de ton cheval au moment de Rio, comment il s'appelle, quel âge il a, depuis combien de temps tu travailles avec lui, tout ça.
Mais écoute, il s'appelait Piaf. Enfin, il s'appelle toujours Piaf.
Oui. Il est à la retraite, Piaf, maintenant.
Il est à la retraite, oui. Il est à la retraite. Il est tombé à 5 km de là où il était élevé. Tu vois. Donc, voilà, c'est le retour au bercail, pardon.
Mais tu l'as connu très tôt?
Pas si tôt que ça. J'ai souvent les chevaux très jeunes, vers 3 ans, pour le débourrage, qu'on appelle. C'est le premier dressage. Et lui, je l'ai eu fin d'année de 6 ans. Donc assez tard par rapport au système que je pratique. Et on était au JO, il avait 13 ans. Donc tu vois, ça faisait 7 ans.
Et oui. Ah ouais. Et t'as continué un peu les compétitions avec lui encore après les JO?
Un petit peu, mais ouais. Voilà, l'heure de la retraite approchait et ça se sentait. C'est un cheval qui avait quand même pas mal tout donné au JO. Mmh. C'est un cheval qui avait 2-3 pépins physiques, tu vois. Et quand son propriétaire l'a acheté, la visite vétérinaire, elle n'était pas... qui serait le contrôle technique, si tu veux, pour acheter une bagnole, ouais, d'occasion.
C'était pas optimal.
Il était pas optimal, ce qui fait que, tu vois, à 13 ans, lui, il était un petit peu au bout. Et que King du Brio, qui était champion olympique à nos côtés à Rio, est en lice pour Tokyo.
Et ah oui, d'accord. Ouais.
À 17 ans. Donc, okay. Voilà, ça dépend évidemment des...
Ouais, donc lui, il voulait être à la retraite, en fait. Il voulait...
C'est quoi l'espérance... Alors, j'ai une question idiote, hein, mais l'espérance de vie d'un...
Une trentaine d'années.
Ah ouais, ouais, quand même. Ah ouais, ça a une longue retraite, presque la moitié de sa vie, tu peux avoir la moitié de ta vie à la retraite.
Il faut pas le dire trop fort, sinon ils vont demander pareil, là, bientôt. Là,
la retraite à 40 ans.
Non, mais à ce qu'il explique, on voit bien que c'est un travail, en fait, de longue haleine, c'est-à-dire qu'il faut préparer son cheval pendant des années, et on monte pas dessus trois quarts d'heure avant une compétition, ou trois jours avant, et les cavaliers travaillent tous les jours avec eux, ou autant de jours qu'ils le peuvent, 365 jours par an. Ils peuvent pas toujours solliciter les mêmes chevaux selon les cirques qu'ils vont faire, les compétitions qu'ils vont faire, donc il y a toute une organisation, en fait. C'est pas un cheval avec qui on est 4 ans non plus, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Et il y a un vrai truc dans la relation cheval-cavalier, et Michel Asseret nous disait par exemple que toi et ton cheval, il disait Piaf, on lui dessine un obstacle sur un mur et Astier lui dit fonce, il aurait foncé dans le mur tellement il avait confiance en toi. Est-ce que c'est des choses que toi tu ressens, que tu sais?
Ouais, ouais, Piaf c'était un missile à tête chercheuse. ouais, pardon pour le micro. un missile à tête chercheuse. On a chaque obstacle est borné par deux fanions, à gauche le blanc, à droite le rouge, on doit passer au milieu. Et voilà, après sur le cross, il y a des tracés et des obstacles un peu difficiles à franchir, des obstacles qu'on appelle directionnels, qui sont soit très étroits de front, soit qu'on saute totalement en biais. Et ce cheval-là, il faisait le boulot à la place du cavalier en partie, il était vraiment très impliqué. Ouais.
Ouais, mais quand est-ce que tu sais, c'est peut-être bête comme question, mais quand est-ce que tu sens, ça y est, il est prêt pour les JO?
C'est un long conditionnement, et à la fin
tu le sais en le faisant, ça.
Ouais.
Tu le sais.
Non, mais il avait déjà fait des compétitions d'un niveau similaire, qui n'était pas des JO, mais qui est, tu sais, on a 2-3 belles épreuves classiques, hein, des Wimbledon, des Roland Garros, du tennis en concours complet, on en a. Et donc le cheval, il avait fait ses preuves déjà.
Oui, ils sortent jamais de nulle part. Ils sont pas forts au JO. Ils ont été forts à d'autres compétitions avant.
Ouais, bien sûr.
Et moi, ce qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est tout ce monde autour du cheval et du cavalier. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à la santé du cheval. Donc, il va y avoir un vétérinaire, un ostéopathe, un maréchal ferrant. Enfin, il y a toute une orga, en fait, autour, comme comme un athlète de haut niveau. Sur l'alimentation, c'est un peu dingue aussi. Alors évidemment, j'imagine bien qu'il ne faut pas qu'il soit trop gros, pas trop mince, mais il n'y a pas que ça.
Il ne mange pas des spaghettis, quoi.
Ouais, mais quand tu vois, j'avais lu, par exemple, l'été, il fait chaud, le cheval, on voit qu'il perd beaucoup d'eau, alors qu'il faut, on va lui donner des électrolytes, c'est-à-dire des réhydratants, pour qu'il soit plus fort, pour qu'il récupère plus vite. Enfin, il y a un nombre de variables qui est infini, je trouve. Et c'est assez fascinant.
Et... Oui, et puis c'est un athlète que tu, à qui tu voudrais donner des bons conseils de bonne hygiène de vie, mais en fait, il faut l'inciter parce qu'il ne parle pas ton langage, il est impliqué de la manière qu'il veut, plus ou moins, et voilà, tu peux amener un âne à la rivière, mais tu ne peux pas forcément le forcer à boire. Tu vois.
Il passe sa vie devant la PlayStation, enfin, à un moment donné, il faut lui faire décrocher, quoi, ça va.
Je sens, et ça fait 3 fois que tu essaies de la sortir. Oui. Enfin, je t'ai fait patienter, je suis désolé.
Ça le démangeait.
Ouais. Et c'était une excellente blague en plus. Ah,
ça, oui. Bah ouais, oh,
J'avais Xbox sur ma feuille, pas PlayStation, du coup j'ai rien compris.
Et du coup on parlait de Todd le champion.
Oui. Non, c'était après. Merde, t'as spoilé.
Non, mais alors pour foncer vers Rio, Sarah, oui. Vers les JO, peut-être un dernier point, c'est parler du voyage, le grand voyage qui mène aux JO pour un cheval. On n'y pense pas assez, mais
c'est un voyage. Non, mais d'autant que pour les chevaux de l'équipe de France, ça va être le premier vol. La première fois qu'ils vont prendre l'avion pour aller à
comme Mathieu.
Et parfois pour certains cavaliers aussi.
Pas que pour les chevaux, visiblement.
Ouais. C'est ça qui est drôle.
Et donc, c'est toujours une interrogation de savoir que, comment ils seront quand même à l'arrivée, parce que c'est pas rien de s'envoler.
Non, pour les chevaux, sont, pour remettre dans le contexte, c'est des proies, hein, donc ils sont assez inquiets tout le temps, hein, c'est leur nature. Donc c'est vrai que le stress de l'avion et tout ça, ça peut avoir des conséquences à l'arrivée sur l'état de forme du cheval. Évidemment, de nos jours, les choses sont faites de manière assez optimale. Ils ont un peu de recul en aviation, on va dire, animale, je ne sais pas si on dit comme ça, mais comprenons-nous comme ça.
On a compris.
Et du coup, ils font ça assez bien, et pour eux, c'est devenu assez banal. Et du coup, le transport s'est passé évidemment très bien, on n'a pas eu d'anecdote là-dessus, et les chevaux sont arrivés. Le mien était un petit peu fatigué de 2-3 jours, d'autres l'étaient pas du tout. Et puis voilà, on est arrivé 6 jours avant. Et
ouais, j'allais dire combien de temps avant.
Du décalage horaire aussi. Enfin, ils sont sujets à ça ou pas du tout. Enfin,
j'ai jamais réussi à leur demander.
Ouais. ils dorment en plein jour. Hein. Voilà, tout simplement.
Je pense qu'ils sont moins sujets parce qu'ils ont des rythmes un petit peu différents de nous, ouais. Et plus séquencés, plus fractionnés, pardon.
Ouais, d'accord. Okay.
Nous sommes prêts pour partir. Au JO, et je vous propose, à quelques jours du départ, d'écouter une petite interview d'un certain Astier Nicolas. Il va répondre aux questions suivantes. Comment imaginez-vous les JO et quand attendez-vous écouter ?
J'imagine pas grand-chose. J'imagine être le voisin de chambre du Jean Bolt. Après, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas trop me focaliser sur la grande fête sportive, mais plus sur mon concours, le traiter comme un concours normal pour pouvoir justement faire la meilleure performance. J'attends une grosse perf de Piaf qui est au service de l'équipe déjà. Hein. Je pense qu'on a toutes les chances d'avoir une médaille et on peut rêver des belles médailles. Et puis après, on est tous aussi capables de faire des médailles individuelles. Donc à titre personnel, j'espère en faire une. Si tout se passe bien, ça peut arriver. En tout cas, j'espère une performance aussi régulière que mon cheval a donné toute la saison, ce qui ne serait pas de mauvais augure.
En tout cas, nous, ce qu'on a compris un peu de notre discussion avec Michel Asseret, c'est que quand vous arrivez à Rio, vous arrivez quand même en sentant que vous pouvez faire quelque chose de bien. Alors, pas forcément une médaille d'or, etc., mais vous vous dites... Enfin, on sent que...
Si, médaille d'or.
Médaille d'or, ouais, même, vous vous dites, on peut viser le top du top en arrivant.
Moi j'aime bien, il se met bien la pression. Je trouve ça drôle, il y a beaucoup de sportifs qui vont toujours dire non mais on verra sur place et tout. Là dans les interviews on voit, il dit ouais, une médaille, pourquoi pas, je trouve ça assez cool
en fait. Moi je me suis dit tiens, il est un peu flégon, et puis après il a ramené 2 médailles, donc j'ai fermé ma gueule en fait.
Disons que faut faire attention à pas trop se cacher derrière la modestie, ça annihile un petit peu les ambitions, et là il me semble pas avoir trop ressenti d'arrogance dans ma réponse.
Ah, non.
Mais c'est que sur le papier c'était possible, donc il fallait se bouger le cul pour le faire, plutôt le dire et se bouger le cul plutôt que de rester modeste et être un peu passif.
Oui, parce qu'il y a c'est une bonne pression, être sûr de ses forces aussi et de...
Sûr qu'on peut, après on sait qu'on peut louper, hein. Le sport de haut niveau c'est une mécanique fine et ça déraille très vite, mais si on fait ce qu'on nous a appris et ce pourquoi on s'entraîne depuis longtemps, ouais. Ça peut rigoler.
Alors, c'est parti. On va commencer donc par le concours complet. Et donc, peut-être on rappelle très rapidement, il y a le dressage le samedi et le dimanche, le cross ensuite le lundi et le saut d'obstacle le mardi. Bravo, Olivier, Sarah. tu
Non, moi
dire
j'avais
quelque chose.
Juste une question un tout petit peu avant, pardon, mais parce que je trouvais que c'était important.
Je t'en prie.
Tu vois une vraie différence quand t'es au JO. Tu dis putain, je suis au JO, c'est ouf. Il y a une chaîne, comme tu dis dans ton interview, il y a Usain Bolt à côté, il y a Teddy Riner, il y a machin. Tu sens par rapport au, parce que tu dis, on prépare chaque compétition de la même façon, etc. Mais là, t'es au JO, tu le sens ou pas quand même ce petit stress en plus comment t'es toi dans ta tête?
Bah déjà, j'étais très déçu parce que j'étais pas le voisin de chambre d'Usain Bolt. le mec nous a accueillis sur des panneaux publicitaires à l'arrivée partout. Enfin, du coup, ouais. Lui c'était king of the mango, quoi, si tu veux,
ouais. Mais pas Usain Bolt.
Et il était pas au village olympique, hein, le mec. Il avait un convoi de voitures de flics devant et derrière sa bagnole.
Il y a 5 athlètes comme ça au JO, visiblement, ouais, ils sont vraiment mis à part. C'est les grosses stars et c'est un peu les hommes sandwich des Jeux olympiques, en fait. Ouais. Même, ouais.
Mais il y avait quand même des stars avec toi dans le...
T'es quand même au village olympique. Enfin,
il y avait... Non, il était au total 2 étoiles.
Il n'y avait pas Usain Bolt, mais il y avait Alain Bott, le kiné de la FFE, en voisin de chambre.
Non, bien sûr que c'était impressionnant tout ça. On a vu Djokovic et tout dans le village, tout ça.
Ah, il est dans le village, Djokovic, quand même, oui.
Ce salopard.
En termes de star, c'est assez haut, quand même, aussi, Djokovic.
Oui, carrément.
Non, mais ça te met un coup de stress ou tu...
Non, du tout. Ouais. Et c'était un plaisir de voir justement ces gens-là. J'ai l'impression d'être à Euro Disney des stars du sport.
Il a dit Euro Disney aussi.
Mais moi, je suis solidaire avec Lounès.
Avec Lounès.
Avec le lundi, l'espagnol.
D'accord.
Et puis, c'est vrai que c'est marrant que l'interview, elle retrace vraiment les souvenirs que j'ai, mais d'après JO, c'est que j'ai vraiment pris ces JO comme une épreuve normale. J'ai pas trop participé à la fête sportive, comme je disais tout à l'heure, parce que ça pourrait amener du stress ou de la déconcentration. Donc on va dire que j'ai profité des JO grosso modo qu'après leur fin, on s'est barré 24 heures après, donc c'est sûr que ça a été court. Non, mais après, je dis grosso modo parce que voilà, il y a quand même des moments dans le village où, moi, je te dis, j'ai vu Djokovic, j'ai vu 2-3 sportifs connus, on s'est baladé, c'était sympa, il y avait plein de trucs rigolos à faire, on a fait des volées avec des beach volées avec les Brésiliens et tout, c'était cool, quoi. Mmh. On a passé des bons moments aussi, mais grosso modo, j'ai surtout été focus
sur ton épreuve, ouais, bien sûr.
L'épreuve comme si c'était pas les JO.
Ouais. Est-ce que t'es même pas venu à l'inauguration
Alors ça, c'était un grand regret, débat au sein de l'équipe, parce que on dit ça, mais on a quand même envie de profiter de cette... De ces JO et tout le monde parle beaucoup de cette...
D'être derrière le drapeau français, de faire le tour, c'est quand même un plaisir. Et
de cette cérémonie d'ouverture, mais c'est notre coach qui a tranché, vous n'avez pas grand-chose à dire.
T'as pas pu prendre des selfies avec, avec toutes les filles, comme Mathieu Lemoine.
Du coup, notre coach a été cool, il a laissé partir de l'ETN et les deux autres, et il est resté avec nous, il nous a emmenés au resto, et on a fait un... ces fameux restos qui est en Amérique du Sud, viande de volonté, donc c'était cool.
Et pourquoi t'as pas fait la cérémonie d'ouverture? C'est parce que tu concourais le lendemain pour le complet, pour le dressage.
Tôt et avec les horaires, machin, les distances, ça faisait qu'on allait dormir que 4 heures et c'était pas...
C'était quand même le bon choix.
Ouais, peut-être, on l'a pas fait, on peut citer les 4 cavaliers, membres de cette équipe de concours complet.
Donc il y a Astier Nicolas,
bravo Thibault.
Surprise générale.
Pénélope Prévost. Elle est sur... elle n'est pas sur le concours complet.
Ouais.
Ah d'accord. Concours complet.
Thibaut Valette.
Thibaut Valette, le colonel, qui, bien sûr, parce que c'est vrai, on l'appelle le colonel, mais c'est le colonel, il est issu de l'armée.
Oui, il est lieutenant-colonel. Il a fait la guerre en plus.
Il a fait la guerre. Waouh.
Quand tu le dis comme ça, c'est pas mal.
Très bien. Moi, la seule guerre que j'ai fait, c'était sur PlayStation, justement.
Mathieu Lemoine.
Mathieu Lemoine et Karim Lagouague. Karim Florent Lagouague aussi. Donc, et c'est une équipe plutôt jeune, en fait. Enfin, parce que toi, t'as quand même 27 balais à l'époque. Karim, il est jeune aussi, je crois.
Il y avait 32 pour Mathieu. Non, Karim et Thibaut étaient un peu plus vieux. Ils étaient, je sais pas exactement.
Plus vieux.
Très bien. Très
40,
bien.
40 et quelques.
Ça reste des jeunes.
Alors, on commence le samedi et le dimanche. par le dressage.
Oui.
C'est la
donc
première
là, on est dans
épreuve.
Le concours complet ouais. Et on commence par le dressage.
Oui, c'est ce que vient de dire Thibaut à peu près. Hein.
Oui, mais il l'a redit avec des virgules.
Et avec, en disant concours complet. Au cas où ça n'avait toujours pas compris.
Comme le pain. Donc, merci, ça Thibaut. Commence. Et là, ça se passe pas mal. Donc, Assil nous a expliqué, le dressage, c'est trop long pour faire en un jour. Donc, ouais. On fait en deux jours. La première partie, il y a les deux premiers donc, qui passent. On est quatrième après la première journée. C'est pas mal. Mais j'ai noté... Castille avait fait deux erreurs de changement de pied droit de gauche au galop avec Piaf. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais...
Une, pas deux. Là.
Ah, allez
ça commence. Et en plus, il conteste.
Eh oui, on n'est pas au rugby, on peut contester.
Donc ça se passe bien. Et le dimanche, après le passage des deux autres cavaliers, Thibaut et Mathieu, on est deuxième. Donc on est très bien positionné après le dressage. Je crois qu'on est à moins d'un point des Allemands qui sont en tête. Ouais. Donc le dressage s'est bien passé. Toi, à titre personnel, je crois que t'es classé 11e après le dressage, donc c'est un bon résultat, un peu moins bon que tes coéquipiers ou de certains de tes coéquipiers qui sont meilleurs sur cette épreuve là mais vous êtes tous dans des très bons scores globaux quoi, en
et fait. Surtout je crois c'est ce que tu disais tout à l'heure ouais. Le dressage, ce qui peut être une épreuve un peu difficile où la France je crois n'excellait pas, vous au moins vous en tirez très très bien,
être deuxième après le dressage à un point des Allemands qui sont historiquement des stars en dressage, on était
ça sent bon,
on était ravis parce c'est... que le meilleur restait à venir pour nous.
Oui, parce que deux choses, il faut savoir que bah, peut-être qu'on l'a dit mais comme je vous écoute pas parler voilà, c'est que c'est les trois premiers cavaliers qui, c'est le temps des trois premiers cavaliers qui, enfin ou le classement
score,
des
ouais.
Trois premiers ouais. Cavaliers qui sont pris en compte, donc le quatrième en l'occurrence
c'est Karim Florent
Lagoua, c'était Karim
quatorzième
voilà,
je crois,
n'est pas pris en compte, donc c'est
donc ça c'est vrai, et épreuve par épreuve, c'est-à-dire que après le cross, si par exemple Karim c'était pas le cas parce qu'il a fait une faute sur le cross, mais mettons qu'il ait performé bien sur le cross et que quelqu'un d'autre devant oui. Soit moi ou les deux autres fasse une faute et qu'on passe derrière Karim, à ce moment-là c'est, voilà, c'est les trois qui sont les meilleurs au jour J de la compétition. C'est ouais. Donc voilà, c'est pas les trois, c'est pas ces trois premiers scores qu'on choisit après dressage, juste pour préciser ouais. Pour les auditeurs ouais. qu'on garde jusqu'à la fin de la compétition, c'est ouais. Pas un choix de allez, on a décidé on prend ces trois parce oui. Qu'ils ont été les meilleurs dressage. C'est à chaque jour de compétition et sur tout ce qui compte, c'est la fin, ouais. Les trois meilleurs scores qui font
ouais, le... C'est vraiment très collectif en fait, enfin, c'est, ouais. C'est parfait. Et donc ensuite, vous enchaînez sur le cross.
Ouais.
Le cross, ça se passe aussi très bien, puisque en l'occurrence... Toi,
alors tu... juste Thibaut, je t'interromps une seconde parce que je crois qu'il y a une anecdote sur juste avant le cross, qui est l'anecdote du fer à cheval.
Oula, ça pourrait être long, là, c'est une sacrée anecdote hein, pour le coup.
Ben non, mais ouais, c'est quelque chose qui vous fait vraiment flipper. Ah. En gros, en deux mots de ce que j'ai compris, ton cheval, pendant les sélections, il y avait un des fers qui s'était arraché et donc on l'avait collé, ce qu'on ne ouais, fait pas
avait,
d'habitude.
Il l'avait arraché. En fait, on avait un terrain que la dernière pré-olympique a été annulée pour cause de grosses flottes fin juin. Ça a été reporté à 10 jours plus tard. On croyait que le terrain était super. En fait, nous, quand on marche dessus, c'était super. Les chevaux, ils sont plus lourds. Ils ouais. Traversaient la croûte et il y avait de l'eau dessous. Donc j'ai perdu 3 fers sur 4. Et le cheval s'est un peu abîmé les pieds en perdant les fers, parce qu'ils sont ouais. Cloués. Et ça lui a fait un peu des. Ça lui a. Pas des moignons, tu vois, mais ça lui a enlevé ouais. Beaucoup de pieds. Donc il, non, c'est, comme un, c'est comme un ongle coupé trop court.
Ouais.
Ça fait un peu mal. Ouais. Du coup, on lui a collé des fers. Et manque de bol, la veille du cross, le cheval se monte dedans, comme on dit. Avec les postérieurs, il vient attraper les fers de devant. Et on voit que la colle se fissure. C'est ouais. Une technique assez rare et assez compliquée ouais. De coller des fers. Là, les maréchaux du concours me disent oui, ok, mais c'est quel type de colle ? Parce qu'il y en a deux. Et si on n'est pas le bon.
U stick.
Si on met pas le bon.
Mais je l'ai laissé à Paris.
Si on met pas le bon type, ça marchera pas. On essaie de joindre la France. Il était minuit en France, impossible. Ils mettent une colle. Le lendemain, je fais un petit échauffement le matin du cross. Et les maréchaux étaient des gens très sérieux et heureusement ils étaient là dès l'ouverture des entraînements. Et ils se sont trouvés là alors qu'on ne s'était pas donné rendez-vous. Et ils m'ont dit, bon alors montre comment ça tient après ouais. L'échauffement. Ça va pas.
Aïe.
Et normalement, si tu veux, le cross c'est une épreuve d'endurance. Tu essayes d'avoir ton cheval au calme parce que c'est une épreuve qui dure 11 minutes. Au calme avant, il boit un coup en rentrant de sa petite préchauffe du matin, on va dire. Et après, beaucoup, ouais. Mettre le cœur très bas, beaucoup de calme, du silence, de l'isolation. Moi je suis parti là-dedans, je reviens de l'échauffement, c'était la catastrophe. Je reviens, après je pars, je reviens de l'échauffement, je pars sur le cross reconnaître mes dernières combinaisons. Il était assez technique le cross, il y avait du boulot déjà pour un cavalier, pas seulement pour un maréchal ferrant. Et je pars sur le cross en me mettant, j'étais obligé de me mettre des claques pour me concentrer à penser cross et pas à penser fer quoi. Et je quitte mon cheval, il y avait 8 personnes qui respiraient plus dans le box, qui parlaient dans tous les sens. et je reviens, même situation. Donc le cheval, il n'est pas bu, il n'a pas pissé, il n'a pas récupéré,
et
il n'était pas calme.
Du stress, quoi, ouais.
Et je monte dessus, il était mou, putain, il avait, tu vois, ouais. Comme ouais. Si t'avais.
Ça l'avait fatigué,
t'avais
quoi.
T'avais fait pré-entraînement, pas de repos et direct la performance. Et, ouais. Et il était, c'était une catastrophe.
Ah, ouais. Et comment il s'en est sorti finalement ?
Ben, il s'en est sorti que sa préparation n'a pas été optimale, mais on a réussi à finir dans le temps quand même. Donc ça, c'était mortel. Les fers ont été scotchés dans tous les sens, tu racontes pas.
Ah ouais, voilà. C'était
ils ont refoutu de l'autre colle, mais c'était scotché. Je pense que même sans clou, sans colle, les fers tenaient, je crois.
Et donc, finalement, ça se passe pas si mal. Et après le cross, la France va être combientième, Thibaut ?
La France, elle est troisième au classement général, ce qui là aussi est un très bon résultat. Ils sont à un peu plus de 10 points des Australiens. Alors 10 points, je sais pas trop ce que ça représente.
10 points, ils étaient devant nous, les Australiens, quoi.
Ouais, c'est ça. 11 points et
10 points, c'est loin. Hein,
c'est loin quand même.
C'est deux, ça veut dire que sur les. On reprend toujours notre logique de 3 meilleurs scores de l'équipe.
Ouais.
Ça veut dire qu'ils font en moyenne 2 barres de plus que nous sur leurs 3 cavaliers qui vont compter.
Ouais. Oui, c'est
sur
ça.
Sur leurs 4 cavaliers. Ouais. Donc tu vois, c'est.
Et vous êtes à 6 points, je crois, c'est des Néo-Zélandais. Donc là aussi, c'est un écart important.
Non, mais les Néos devaient être derrière parce qu'il y avait les Allemands devant, non ?
Eh ben non.
Et non, justement, les Allemands, ils avaient chuté sur l'épreuve. Ils étaient plus 4e. Et ils étaient 10 points derrière vous. Et ensuite, ils ont remonté, les Allemands.
Ouais, vas-y,
pardon.
Olivier.
Non, je reviens sur cette histoire de cross. Pardon, excuse-moi, mais j'ai vu, je l'ai vu avant pour préparer. On va vous le mettre sur les réseaux sociaux. Mais c'est magnifique, enfin, le cross que tu fais. En plus, on sent vraiment on entend la respiration du cheval, on entend la respiration de Piaf. Et quand j'entends, tu changes. En plus, ça a l'air ultra chaud parce que pour le cross, c'est quand même un dénivelé aussi. Il y a de la montée, il y a de la descente. C'est vraiment ultra
c'est
chaud. Pendant 11 minutes, le cheval et à fond les ballons. Alors là, tu me racontes en plus cette histoire de fer. Je sais pas comment tu fais, honnêtement. Et tu le fais presque parfaitement, le cross. Donc,
on a fait un super cross. Le cheval était remarquable, mais c'est vrai qu'il est parti. Je le sentais pas. Il a jamais tiré, quoi. Normalement, au début, il est un peu fringant. Il m'emmène un peu. Et là, il est parti diesel, mais bon, il a fini diesel, quoi.
Ouais.
Top.
Écoute, en tout cas, ça te permet, même au classement individuel, de pointer à la 3e place. À ce moment-là, ce qui fait qu'on se dit ah bah peut-être qu'en plus le classement individuel pour Astier il est jouable.
Et oui. Et donc il reste la dernière épreuve qui est le saut d'obstacle.
Et là ça devient sacrément cool. c'était déjà bien avant, mais là ça devient chouette. Parce que je disais, il se passe un peu tout ce qu'on veut voir dans le sport, qu'on connaisse ou pas ce sport-là. C'est-à-dire, en fait, on comprend, donc les Français passent les uns après les autres. Donc, on va parler d'Astier, bien sûr. Mais avant, il y a Karim Lagoua qui fait un sans faute. Lui, il est un peu loin au classement. Donc, c'est pas en score global, en tout cas, c'est pas lui le plus important. Mais ensuite, il y a les Australiens. Une Australienne qui s'appelle Price et un Néo-Zélandais qui s'appelle Tini, c'est ça ? Ou Tini, qui accumule des fautes.
Ouais,
alors
c'est l'inverse, les pays, mais c'est ça, ouais.
Ah, c'est ça, Néo-Zélandais et Australiens, d'accord, ils accumulent des fautes. Ils étaient devant nous au classement, donc on commence à se dire que finalement c'est jouable pour mieux que du bronze ou de l'argent. On a Thibaut Valette qui passe, qui lui fait un sans faute. Ensuite, Mathieu Lemoine qui commence très bien, mais qui termine par deux erreurs parce que son cheval est un peu fatigué, ou en tout cas que ça se passe moins bien que prévu. Donc tout va dépendre d'Astier.
D'Astier. Ouais.
Et là, c'est assez simple. En gros, s'il fait un sans faute, on peut jouer le podium, voire mieux. On ne pourra pas le savoir, on ne le saura qu'après, puisqu'il ne passe pas en dernier.
On passe dans l'ordre inverse du classement.
Ouais, c'est ça. Et là, c'est génial. Regardez-le, parce que c'est aussi très bien commenté. Enfin, en tout cas, pour un non-initié comme moi, par les deux journalistes, ça te donne envie. Elle fait monter en intensité. Elle te dit, il reste 3 obstacles, 2 obstacles. Elle te fait comprendre que quand même,
il y a le suspense, on
n'est pas loin de la
fin.
Rupture. Ouais. On ne sait pas ce qu'est la réalité. C'est toi qui vas nous dire. Qu'est-ce que tu te dis, toi, quand tu t'élances ? Tu sais qu'il ne faut pas faire une seule faute pour que vous soyez médaillé, ou ça, t'en sais rien et t'es un peu.
Si, je le savais. Il y avait Michel qui était stressé. Il faisait les comptes là avec ses lunettes et tout là. Il arrêtait pas de recalculer machin.
Ah oui, d'accord, donc t'étais au courant.
Et puis je crois que ses émotions l'ont un petit peu submergé parce que je pense pas que c'était. C'était très coach, l'attitude de calcul et il faut que tu fasses. Enfin, tu te rends sinon. Enfin, vas-y.
Du coup, je
me souviens pas de l'avoir dit, mais en fait, tout le monde me l'a raconté derrière et je lui ai dit, je l'ai remballé en disant. Détends-toi, je vais te le chercher, ton sans faute, tu vas l'avoir ta médaille, je sais pas quoi. Apparemment, j'étais chaud, quoi. J'ai le genre d'attitude que t'as pas à tous les concours. Mais c'est une pression qui m'a un peu galvanisé, on va dire.
Transcendance.
C'est ce que dit un peu la journaliste, la présentatrice. Elle dit que t'as pas l'air d'avoir la pression, ou qu'en tout cas, tu résistes à cette pression comme si t'étais cavalier plus âgé.
Mais
t'es presque plus toi-même. En fait, c'est ça ce que tu veux dire. T'es pas.
Bah, ce qui est marrant, c'est que juste en sortant du tour, je me souvenais pas de lui avoir dit.
C'est ça, ouais.
Deux minutes avant. Donc,
quelque part, les autres te le racontent. Ouais. Toi, tu te souviens pas du tout lui avoir dit ça, quoi, en fait.
Non, absolument pas.
Ah, c'est une forme de transcendance, quoi. T'es dans une sorte de tunnel de concentration.
Mais je me souviens juste qu'il était un peu comme ça. Un peu ému. Je dis, il y a pas de place pour ça, là.
Ouais, allez, on y va, quoi.
Donc, tu fais un sans faute. Donc là, on sait qu'il va y avoir une médaille au bout.
Il minimum. A fait le boulot, on se dit c'est bronze minimum, ouais. Et il nous reste les Néo-Zélandais et les Australiens.
Et voilà, comme c'est l'ordre inverse du classement, ouais. On a ce petit suspense est préservé, et puis en fonction de leur mésaventure,
et là on a notre champignon, notre légende, Mark Todd, qui ne doit pas faire d'erreur, et malheureusement il en fait, j'ai noté 4, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'imagine que c'est ça, 4 fautes, donc il n'est pas invincible. La France est au minimum médaille d'argent. Et là, il reste un Australien à passer qui s'appelle Burton. Burton, là aussi, les choses sont assez simples. S'il fait tomber une barre, la France est championne olympique. Il fait tomber la première barre. le suspense est
Et puis après, il y a Cantelou, je me souviens, qui commente. Il fait tomber une deuxième barre. Il fait « On est deux fois champion !»
Donc, l'équipe de France est en transe. On est champion olympique. Et c'est la première fois qu'on a un titre olympique en équitation depuis Athènes 2004. Donc, ça fait pas si longtemps non plus, mais quand même.
À 12 ans, quand même.
Ouais, c'est pas mal. Et voilà, bravo. Bravo à ces 4 garçons pleins d'avenir.
12 ans, c'est presque la moitié de l'âge de Astier quand il s'élance sur ce concours. Hein.
Oui, moi j'avais l'impression que ça faisait longtemps à l'époque.
Ouais, non, mais c'est long.
Et il paraît que c'était super chouette que quand vous retournez dans le village olympique, il y a l'équipe de hand qui vous chante la Marseillaise, etc.
C'était assez magique, ça.
Mais que vous n'avez pas eu tellement le temps d'en profiter parce que finalement vous êtes reparti assez tôt après ça.
Ouais, bah, on est reparti assez tôt. Alors ça, c'est alors,
pourquoi on repartit vite après. Bah,
on se demande. Je sais pas. Déjà, on décide pas.
Ouais. Je crois que c'est parce qu'il y a pas assez de place dans le village olympique pour tout le monde, donc faut faire tourner les athlètes.
Et du coup, toi, tu.
Mais
tu...
par contre,
les serviettes aussi.
Avant que tu rentres en France, il se passe quand même un petit truc, c'est que tu vas gagner la médaille d'argent au concours complet individuel.
Un détail.
Petit détail. Peut-être. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
sur le concours individuel?
Sur le concours individuel, est-ce que l'état d'esprit il est différent par rapport à l'équipe? Est-ce qu'il y a moins de stress? Est-ce qu'il y a plus de stress?
Il y avait un peu moins de stress et je pense qu'il m'en manquait peut-être un peu. Et du coup, je fais une faute qui ne me sert à rien. Mais disons que cette faute, elle ne m'a pas changé mon classement. Je n'aurais pas gagné en l'état.
Ouais.
Ah, après, tu peux imaginer qu'ayant fait sans faute,
oui.
Tu mets plus la pression
sur le.
Potentiellement. Le après, lui, c'est un solide 6.
Mais c'est de la science-fiction. Après, on ne peut pas savoir. C'est
exactement.
Ça.
Ouais. Donc. Non, j'ai un meilleur souvenir par équipe.
Okay. T'as
un
meilleur.
Mais tu le fais. Enfin, t'as le temps. Enfin, tu le fais un tout petit peu. Il y a quelque chose qui t'écrase. Enfin, moi, je m'imagine à ta place. Je suis pas du tout sportif. Mais
imagine-toi, Olivier.
Je pense que c'est comme.
C'est souple, regarde comme t'es assis.
Oui, je suis suspendu à une.
Pour les auditeurs, il est allongé par terre. Hein.
t'as gagné la médaille d'or par équipe. En plus, une équipe soudée, visiblement, etc. Il faut te relancer quoi, c'est le lendemain.
Non, c'est l'après-midi même.
C'est tout de suite, c'est l'après-midi. Ah oui, c'est pire encore.
Il peut pas la fêter.
Mais c'est pire encore, c'est-à-dire que tu faut remettre
dans la tête, ouais.
Et le soir.
Et le cheval avait trouvé ça bizarre aussi parce qu'ils sont conditionnés, c'est des professionnels à cet âge-là, les chevaux, et ils ont jamais sauté deux fois. Vraiment, le complet, c'est dressage cross CSO. Là, je suis remonté dessus. Et le cheval, il était complètement sur le reculoir.
Il avait toujours ses problèmes de fer ou pas? Ou ça
non,
s'était réglé?
Non, ça allait.
On le voit un peu Piaf d'ailleurs, on le voit un peu différent de l'obstacle que tu fais sur le concours complet. On le voit un peu plus, je sais pas, alors j'y connais rien, mais peut-être parce que je les ai vus juste l'un à la suite de l'autre, mais c'est vrai qu'on le, c'est un peu plus hésitant d'ailleurs sur le moment où tu fais la faute sur la double barre. Alors que le matin même, il l'aurait fait, je pense, peut-être sans.
Mais déjà, la détente, ce qu'on appelle la détente, c'est l'échauffement. Le cheval, il disait, mais tu veux me vendre? C'est quoi, tu me montes un cavalier? C'est quoi le délire là? Et il était à fond, il était sur le frein un petit peu. Et
suspicieux,
puis,
quoi.
Il avait fait une faute un peu comme en piste à la détente. Il se livrait pas, il comprenait pas. Ils sont un peu conditionnés quand même, quoi. Et, ouais.
Et donc on a une médaille d'or, une médaille d'argent, et on va l'équipe de France, en tout cas, va aller chercher également le titre en saut d'obstacle, donc avec une équipe composée de 4 cavaliers, Pénélope Leprévost, Roger-Yves Bost, Philippe Rosier et Kevin Stott. Est-ce que vous voulez me dire quelques mots assez rapidement, parce qu'on est déjà très très long sur cette épreuve, peut-être?
Moi,
sur Pénélope,
mais je ne vois plus rien mes papiers, parce que c'est à partir de ce moment là que l'imprimante ne voulait plus faire beaucoup d'efforts. Je peux juste dire en tout cas que le début de compétition pour Pénélope Leprévost a été un peu compliqué, parce qu'on parlait justement du stress des chevaux et il y a un petit souci de colique, Flora de Mariposa, au début de compétition.
Comme toi, Younes.
Donc la colique chez les chevaux, c'est l'opposé de chez nous, c'est des bouchons.
Ok.
Et les chevaux en meurent.
Ah oui, mais
les chevaux peuvent en mourir, et donc c'est toujours une situation d'urgence. On arrive à les gérer, heureusement, régulièrement, mais c'est toujours un sujet très grave.
Ah oui, donc Pénélope Leprévost, elle doit être en méga stress, elle doit être super inquiète.
Elle dormait à côté de sa jument pour la surveiller,
la rassurer aussi.
Toute l'équipe était hyper inquiète, parce que du coup maintenant on sait pourquoi, mais que finalement on savait pas si elle pouvait revenir faire la compétition avec l'équipe.
Et finalement, ça se passera plutôt bien. Et je vous propose d'écouter la conclusion. C'est Roger Yves Bost qui est le dernier à concourir. Et il a en main la possibilité de rapporter... j'ai beaucoup de mal de rapporter l'or à la France. Écoutez.
De quoi donner des idées à l'équipe de France de saut d'obstacle, composée de Kevin Stott, Philippe Rosier, Pénélope Leprévost et Roger Yves Bost. Si le parcours de ce dernier est parfait, ce sera l'or.
Allez, la combinaison, c'est la partie très technique, c'est là où tout le monde commet des erreurs. Allez, une foulée, hop.
Attention,
allez, une foulée, allez. Allez, le bidet maintenant, il faut y aller. Il faut foncer, on va prendre des points de pénalité. Allez, allez, 82 secondes.
On s'en fout du temps, il faut qu'il passe en faute.
Ouais, ça c'est bon ça.
C'est fini, on a
gagné. C'est superbe, on a gagné, on a la médaille d'or de ce Brésilien qui nous confirme.
Philippe Rosier devient lui aussi champion olympique. 40 ans après son père, vainqueur à Montréal en 1976.
Et c'est donc une troisième médaille pour l'équipe de France en équitation au Rio. Peut-être pour
finir... On est bien ici au Paris.
On est très bien. Non, mais peut-être, est-ce qu'on peut te laisser un peu le mot de la fin ou de la conclusion sur ces jeux, genre, quand tu t'en souviens, c'est quoi comme émotion
La médaille, voilà. Elle est sur la cheminée. À quel moment, est-ce que tu comprends que tu es champion olympique? La question du Younes, c'est mieux. Là, il est sur la cheminée.
Ah oui, la médaille, elle est sur les portes vertes.
Ah oui.
Et non, et peut-être on espère faire la même chose à Tokyo, alors. Aussi bien.
Oui, on espère que la France va briller à Tokyo, et clairement. Et après, moi, à titre personnel, tu me poses la question, je ne suis pas sûr d'être dans la sélection, mais j'espère vraiment que le drapeau va briller encore.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Oui, moi je voulais savoir, quand on fait la fête, quand on est champion olympique, est-ce que le cheval, on lui offre quelque chose quand même? Il a le droit à un repas de fou?
Des spaghettis?
Ou rien de particulier?
Une espèce de château de carottes.
Carottes.
Que Astier fait lui-même. Il passe comme les châteaux de cartes, il fait lui-même son château de carottes.
Non, je fais un grand trou dans un sac de 25 kilos.
Voilà.
Écoute, comme t'en as reçu un pour Piaf, on va donner un Pins
FR3.
Attends, c'est quand même pas tous les jours qu'on a un double médaille olympique invité. Oui. Ça méritait le Pins FR3.
Et en plus, Astier et Younes croient vraiment que FR3 s'appelle encore FR3.
Ah ouais.
C'est parfait.
C'est pas le cas.
D'où les vannes sur son âge.
C'est ça.
Alors, avant de passer à l'antidoping, et j'ai vraiment hâte que Astier entende le jingle de l'antidoping qu'il ne connaît pas, on te dit un très très grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
On remercie aussi Michel Asseret d'avoir répondu à nos questions, et Sophie qui est chargée de communication à la Fédération Française d'Équitation aussi pour son aide. Sans eux, tout cela n'aurait pas été possible. Et c'est l'heure du jingle anti-doping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc il fallait faire la petite chose.
Olivier, c'est à toi de jouer.
Astier, reviens.
C'est qui, cet homme-là?
Marcel Desailly. Voilà.
Ah oui, quand même.
Ouais. J'ai l'impression que c'est une vidéo d'avant-guerre.
Marcel Desailly est peut-être d'avant-guerre, on n'a aucune preuve sur ça. Alors, oui, tu vas voir, l'équitation, c'est le seul sport aux Jeux Olympiques avec un animal et un humain qui concourent ensemble. Il y a une vraie osmose entre le cavalier et le cheval. C'est dingue, me dit Sophie, enthousiaste, au téléphone. En même temps, Sophie travaille à la Fédération Française d'Équitation, donc le fait qu'elle aime les chevaux tombe plutôt bien, vous me direz.
Enfin, si elle te disait, moi je préfère le basket.
Les personnes qui n'aiment pas ce qui compose leur travail, il y en a plein, me direz-vous. Par exemple, Fabien Otteniente fait du cinéma et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il aime beaucoup ça. Oui, c'est une attaque gratuite sur Fabien Otteniente.
C'est gratos, ça du bien.
Il est 9h30 du matin, j'en suis déjà à mon 6e café, comme tout intermittent qui se respecte en ce moment, j'ai une matinée plutôt calme. En gros, j'avais rien à foutre. J'ai donc décidé de me pencher sur cette question du sport animalier. Qui est-il ? Vous allez voir que j'ai pas vraiment perdu ma matinée. Hein. Alors, évidemment, Brigitte Bardot étant une de nos plus grandes fans, j'ai de fait exclu tout de suite les sports où la maltraitance animalière était latente, et aussi pour Chloé. Exit donc la corrida, les combats de coqs ou le lancer de renard.
Ça existe vraiment?
Ça existait, ça s'est arrêté au 18e siècle. C'était vraiment un. C'était, oui, bien sûr, Astier, tu me regardes comme ça. On balançait toutes sortes d'animaux dans
J'aurais
les airs.
J'aurais dû naître au 18e siècle.
On balançait toutes sortes d'animaux dans les airs pour rigoler. Et je vous fais. J'arrête, je ne vous parle pas du massacre de Dresde où on balançait des blaireaux, des loups et des renards. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Bref, j'ai pas envie d'en parler.
Horrible.
Comment tu balances un loup? C'est la question, je me la pose encore. J'ai aussi viré tous les sports avec animaux seuls, comme les courses de lévriers ou les courses d'escargots.
Ah, mes préférés.
J'adore les courses de lévriers.
Bon, ok. Sarah me regarde avec des yeux, avec des étoiles dans les yeux, donc je fais un petit mot sur la course d'escargots. Sachez que la course d'escargots se pratique généralement en Angleterre. Évidemment, les Français, nous, on les bouffe. Les Anglais les glorifient en athlètes, hein, chacun son truc. Donc pour une bonne course d'escargots, qu'est-ce qu'il faut ?
Il
faut.
Escargot.
Exactement, Thibaut. Un escargot. Younes, réveille-toi. Donc un escargot, en général, l'escargot du jardin, c'est-à-dire le Helix aspersa. Voilà, ouais. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et avec une piste circulaire où les escargots partent du milieu et doivent atteindre le bord du cercle. Le rayon est traditionnellement entre 25,4 cm, c'est très précis, ou 76,2. Alors je sais pas pourquoi il y a autant d'écart.
Est-ce que la piste est mouillée pour
Alors ne posez pas trop de questions techniques. Les concurrents sont différenciés par des numéros de course qui sont peints directement sur leur coquille, où on peut peindre sur l'autocollant et mettre un petit autocollant sur le voilà. Évidemment, Mickaël aurait fait une bite, hein, mais bon,
on le salue.
On l'embrasse. Et sachez que le record du monde de l'escargot le plus rapide est de 0,0275 mètres par seconde, ce qui correspond à 27,5 millimètres par seconde, ce qui correspond à 99 mètres par heure. Donc c'est toujours plus rapide que Younes après 21h. Mais voilà, ce record est enregistré en Angleterre
en
2006. Fermons la parenthèse gastéropode et revenons à nos moutons. Enfin non, à nos dromadaires, gigalol. Oui, nous connaissons le sport hippique, mais il y a aussi le sport...
Dromadaire
quoi. La course dromadaire est très populaire dans les pays orientaux, la Jordanie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, mais aussi l'Australie et la Mongolie.
Et la Bretagne.
Je savais pas. Non, pas la Bretagne, mais nous allons parler de la Bretagne après. Merci.
On va parler de l'Orient.
C'est un sport ultra populaire, plutôt spectaculaire. Le dromadaire peut aller jusqu'à 65 km/h en pointe de vitesse et il peut faire sur une heure 40 km/h de moyenne, ce qui est pas mal.
C'était utilisé par l'armée aussi à l'époque, les dromadaires, c'est ça?
Eh bien, je vous ai encore dit, ne me posez pas de questions trop techniques. Spectaculaire et très rentable la course de dromadaire. Les touristes adorent ces courses, donc monnaie. Et les paris autour affluent de partout avec parfois d'énormes sommes d'argent en jeu, monnaie. D'ailleurs, quand il y a de l'argent, en général, ça part en couille. Outre le traitement douteux des animaux, c'est la petite histoire un peu sombre, les jockeys on en vit aussi de toutes les couleurs. On utilisait des enfants esclaves pour les mettre sur les dromadaires parce que les enfants sont plus légers,
le bon
par
vieux
définition
temps.
ça s'est arrêté et c'est pas si récent.
C'est des robots maintenant.
On a arrêté ça en 2004 et maintenant ce sont des robots qui ont pris la place, tout à fait.
Incroyable.
C'est d'aluminium et de plastique. Il y en a qui ont des GPS, il y en a même qui ont des cardiofréquencemètres.
Comme moi.
N'hésitez pas. Pour la fréquence cardiaque, donc c'est assez incroyable. Et c'est les robots, les nouveaux rois de la piste.
Sur les dromadaires ou les dromadaires sont des robots?
Alors, les dromadaires ne sont pas sur les robots, c'est les robots qui sont sur les dromadaires. Oui. Et voilà. Et maintenant, et voilà. Et sachez
le jockey est un robot.
Le jockey, tout à fait. C'est en combien de façons?
Oui. Alors, juste, Chloé, Thibaut, je vous le dis, quand vous parlez très loin du micro, personne ne vous entend et ça fait de l'écho.
Oui.
Alors,
vous êtes deux nuisances.
Je juste parler à Thibaut.
Ah, mais on tourne.
On tourne.
Alors, oui. On n'est pas encore remplacé par des robots, même si ça va venir. Peut-être qu'on
les
fera EPO.
Chiens, les chiens.
Alors, les chiens, peut-être qu'on va y aller. Oui, allez, parlons de la course de traîneau. J'aurais pu parler des canards parce qu'il y a aussi en Indonésie des lancers de canards. Ça s'appelle sur le Paku Itiak. On apprend à des canards à voler et on voit où le canard va le plus loin. Voilà, mais je ne vais pas en parler. On va parler plutôt de la course en chien de traîneau. Alors, la course en chien de traîneau, c'est très simple. Il faut des chiens et un traîneau. Et un musher aussi. Alors, le musher, rien à voir avec le chanteur. C'est le conducteur de traîneau.
Bien sûr.
Voilà.
Le célèbre musher.
Voilà. Sachez qu'il y a une vraie compétition sportive et on a même fait une démonstration au JO de Lake Placid en 1932. C'est une compétition plutôt éprouvante puisqu'on fait des centaines voire des milliers de kilomètres dans le froid avec dénivelé négatif, positif comme le cross à Rio 2016 pour Astier. 4 marques de chiens adaptées au grand froid, hein. Le Yuski de Sibérie.
Des marques.
Oui, tout à fait. Le Balabut d'Alaska, l'Eskimo du Groenland et le Samaï et le Samoyed, voilà.
Samoyed. Le Samoyed.
Non, le Samoyed, il y a écrit sur mes notes. Tu te tais. Plusieurs compétitions officielles aussi. Parmi elles, l'Iditarod Trek Sleigh Dog Race. Bon, on appelle ça l'Iditarod. C'est en Alaska. C'est une course de 1757 km, figurez-vous. Elle est très connue. Elle se fait entre 8 et 15 jours. Et c'est un peu. L'histoire est belle, puisque c'est un peu familial, puisque le plus vieux vainqueur, c'est Mitch Savey. C'est aussi le recordman. Il a fait 108 jours. Et le plus jeune, eh ben, c'est Dallas Savey, son
petit
fils.
Ah oui, son fils.
N'exagérons rien, Younes.
D'accord.
Le petit-fils, c'est pour toi. Il y a aussi une course qui passe aux USA, c'est le Yukon Quest, qui est très connu. Et aussi en France, la Grande Odyssée. Et dans la Grande Odyssée, ce qui fait quand même plus de 1500 km, c'est Rémi Coste, le champion. Voilà, bon, alors les chiens, vous me direz, c'est très sympa, mais je te le dis, Astier, j'ai un chat, moi. Il s'appelle Marcel, ok? Il a pris un peu de poids ces derniers temps, je le vois affalé sur le canapé. Ouais, je me demande que faire. Alors, j'ai voulu inscrire à la course de traîneau, mais il a été refusé. Du coup, peut-être qu'un jour, d'ailleurs, il y aura une course de chat de traîneau, ce serait rigolo. En tout cas, j'ai trouvé la compétition pour Marcel, c'est l'agilité féline.
Oh, voilà.
C'est une course de saut d'obstacle, enfin, course d'obstacle, c'est-à-dire qu'il y a de l'escalier, il y a de la barre, il y a du cerceau, il y a du tunnel, c'est génial. voilà, donc, alors.
Est-ce qu'il y a du clavier d'ordinateur?
Il y a peut-être du clavier d'ordinateur. Les chats d'appartement le font très très bien. Et en plus, on accepte toutes les marques de chats. C'est-à-dire que pas que les Maine Coon.
T'es sûr qu'on dit des marques?
On accepte aussi les chats de gouttière, comme le mien, un peu miteux. Donc du coup, je vais tout de suite l'inscrire à la TICA ou la SAFA, qui sont les deux fédérations félines aux États-Unis qui organisent les compétitions. Et d'ailleurs, Chloé, tu pourras y amener peut-être Mimi.
Mais c'est à partir de quel âge, justement? Parce que Mimi n'a pas encore un an.
Ah, je pense qu'il n'y a pas de réserve d'âge. Je crois qu'ils sont très ouverts là-dessus.
Parce que tout ce qui est escalier, rambarde, Mimi, elle le fait déjà très bien.
Eh ben voilà, je pense que c'est la performance avant tout.
D'accord.
Donc on a parlé de Younes pour les escargots, on a parlé de Chloé et moi pour les chats, mais je ne t'oublie pas, Sarah.
Les chiens.
Tu aimes les chèvres?
Ah non.
Mais tu aimes le yoga?
Oui, tu vas me parler du yoga avec les chèvres.
Et ben voilà, le Got Yoga est fait pour vous. Mais bien sûr, Astier, ça y est, il a complètement changé.
Astier, il est parti en bagnole il y a une demi-heure. Hein.
Et ben voilà, il va. Attendez, je me perds dans mes notes.
Il est à 200 km/h sur la 13.
Le Got Yoga. Alors, il va falloir que tu partes à LA, cher ça, parce que c'est là que les foldingos, enfin, pardon, les bourgeoises friquées, enfin, pardon, les californiennes faisant du yoga en font.
C'est tout ça.
Le Got Yoga est basé sur la très sérieuse thérapie animale relaxante. Les chèvres sont dressées dans des fermes spécialisées pour qu'elles puissent accompagner gentiment les séances. Peut-être qu'il y aura le horse yoga, peut-être que tu peux développer ça.
Alors, une chèvre qui te monte sur le dos pendant que tu fais une position, ça va, un cheval, ça peut être plus douloureux à mon avis.
Moi j'ai fait ça avec un âne, je vous le rappelle. Je faisais pas de yoga. Voilà, les petits bonds, les bêlements sont considérés comme relaxants et tout ça se fait avec une sacrée somme d'argent. Il y a tout des séminaires, etc.
Sont forts, Eric.
Ouais.
Et enfin, j'ai parlé de tout le monde, sauf de Thibaut, sauf d'Astier. J'ai trouvé le sport pour vous. Alors, il va falloir un peu que vous quittiez votre Normandie natale pour aller en Bretagne. Je suis désolé, les gars.
Ça commence mal.
Je suis désolé, les gars. Et là, s'il y a un truc, alors là, c'est pas comme le Mont Blanc. S'il y a un truc, le Mont Blanc, n'importe quoi, le Mont Saint-Michel.
Qui est en Normandie.
Oui, le Mont Blanc, oui. Il y a des super crèmes caramel. S'il y a un truc qui appartient à la Bretagne, c'est bien.
Les dauphins.
Le crachet de Bigorneau. Ah. Alors, le crachet de Bigorneau, ça se passe à Cibril, au port de Mogariec, que je connais bien parce que j'y ai fait le GR34, figurez-vous, cet été. C'est un charmant coin du Finistère. Bah, l'été dernier, puisque cet été, ce sera là. Je peux pas le faire dans le futur. Oui. Se réfléchir 3 secondes, merde.
Non.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour un bon crachet de Bigorneau? Donc, il faut une piste. Hein. En général, on a une piste de 20 mètres de longueur par 3 mètres de large. Et le cracheur a 3 essais. Voilà. Il peut prendre son élan ou non. C'est comme il veut. Hein.
Il faut faire.
Oui, il peut faire 3 essais pour faire son score, quoi.
Mais avec le même bigorneau,
il crache au bigorneau, crache après le bigorneau, il est plein de sable, il va pas reprendre le bigorneau dans sa bouche, il va prendre un autre bigorneau. Et
c'est comme un grand glavio, quoi.
C'est un bigorneau. Oui. Sachez que le recordman du monde de cracher de bigorneau, alors bon, mes notes sont un petit peu vieilles parce que je n'ai que 2012, donc peut-être que s'il y a un auditeur qui est spécialiste de crachat de bigorneau,
ou même
le cracheur lui-même, n'hésitez pas. Donc c'est Alain Jourdain qui a fait quand même, alors attendez, parce que c'est vachement impressionnant, c'est quand même 10m57.
Ah ouais,
non, mais attends, il crache son bigorneau à 10m57, c'est quand même assez impressionnant. Même moi, en faisant pipi, je fais 30cm.
Tu te fais sur les pieds.
Et je le fais. Heureusement que c'est la fin de soirée. Et sachez que Alain Jourdain a tout gagné d'ailleurs, il a gagné toutes les compétitions. Voilà. Et sachez, pour toi Chloé, non, le deuxième c'est un Allemand, c'est international, et le troisième c'est un Écossais. Non, c'est vraiment très sérieux. Et sachez que Chloé et Sarah, vous pouvez jouer parce que la compétition est ouverte aux femmes.
Ah, on est très contents.
On a hâte de te voir, Sarah, là-bas.
Je vous laisse parce que moi je dois inscrire Marcel à l'agilité féline.
Merci beaucoup.
Merci Olivier.
Je suis quand même un peu déçue que t'aies pas parlé genre de tous les concours pour chiens qui doivent faire des parcours ou alors ils sautent le plus loin possible dans les piscines. Il y a plein de vidéos sur YouTube, vous pouvez vraiment y passer quelques heures.
T'es déçue alors que je t'ai parlé du lancer de renard, je comprends pas là. Ouais. Franchement,
il a été quand même assez loin, je trouve.
Bon, eh bien, c'est l'heure de nous quitter.
C'est l'heure d'un second avis. Non,
c'est pas l'heure d'un second avis, mais vous pouvez écouter les autres podcasts de Fréquence Moderne. Thibaut.
Relire Tintin. Bah,
bravo, Chloé.
Moi, je connais 2 heures de perdu.
Bravo, Olivier.
Culture d'Emile.
Et Younes, t'en as un petit dernier.
Ouais, moi, mon préféré, 20 minutes avant la fin du monde.
Merveilleux. Ouais. Il est tellement lèche cul, ça. J'hallucine. Et encore, merci.
Oui, merci beaucoup, Astier.
D'avoir écouté.
Ouais.
D'avoir écouté jusqu'au bout l'antidoping d'Olivier.
Qui était parfait. Bravo Olivier.
Et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Au revoir tout le monde.
Au revoir à tous.
À bientôt.